Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Politique correct.
Politically?
Politique correct.
Politique.
Évitez.
Retouche. Serious?
Une production jeune mais dynamique.
Vous écoutez Politique correct avec Guillaume Raté-Côté et Chico Desroses. Plus de Chico dans Politique correct. Tigui s'en vient, c'est le bouffe correct avec Chico.
Bienvenue dans votre show du retour à l'antenne de CJMD 96.9, la radio de Lévis. D'ailleurs, on est sur Internet, ben oui, facile à trouver au 969fm.ca. Sinon, ben là, avec vos mobiles, vous pouvez télécharger l'application autant sur le Play Store que le l'autre affaire, là, la SEC, là, Apple Store.
Ouais.
Apple Store. Et sans plus tarder, on s'en va au bout du fil parce qu'on a la chance cet après-midi d'avoir au téléphone un ami, mais aussi le maître du monde, Master of the Universe, Marteau Napoli. Salut, man!
Salut, les amis, en forme!
Hey, tout le temps, tout le temps, notamment quand on jase. Puis d'ailleurs, on a de quoi d'intéressant à jaser, c'est-à-dire Country Storm qui s'en vient. C'est quoi, c'est la semaine prochaine, ça?
Oui, déjà la semaine prochaine, puis c'est la première fois qu'on le fait en Beauce, mais tu sais, ça fait 6 ans que je le teasais qu'un jour on allait aller en Beauce. Fait que là, finalement, c'est cette année, c'est la semaine prochaine, 28, 29, 30 mars, c'est à Saint-Victor. J'aime bien le setup là-bas parce que eux autres, il y a un gros festival, les festivités western de Saint-Victor. Ça existe depuis 45 ans, c'est durant l'été, mais ils ont construit au fil des années plein d'installations, dont un gros saloon. Fait que là, ils me prêtent leur saloon pour qu'on fasse la storm là-dedans. Fait que ça va être intense la semaine prochaine.
Ben le casting est bon. C'est d'après moi d'embauche, mode saloon, une coupe de consommation. Puis parle-moi du line-up aussi, ça va être capoté parce qu'on a un gros line-up encore une fois dans le Country Storm.
Ben, quand tu dis, la Beauce, c'est un territoire très particulier,
oui.
Très, 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 très festif. J'ai habité là pendant 10 ans. Je connais ma gang, ils ont out, là. Puis le line-up, ben, c'est sûr que je voulais, comme, faire un gros cadeau à ma Beauce natale. Fait que, c'est Francis de Grandpré, Phil Lauzon avec son Luke Combs Edition, qui va être juste incroyable. Le DJ qui est là 3 soirs, un certain Bright Tech, notre chum Brian Jankra, qui est tout le temps déchaîné.
Ben oui.
J'en ai une Nashville Experience, parce qu'on est retourné à Nashville avant Noël, puis je me suis rendu compte que Nashville était rendu un mélange de classic rock et de country. Fait que c'est ça vraiment que je veux faire le jeudi de la Storm à Saint-Victor. C'est oui, du Morgan Wallen, oui, Cody Johnson, mais rajoute à ça du Linkin Park, des tunes de Motley Crue. C'est vraiment le classic rock mélangé avec le new country. Je pense que ça va être vraiment ça va être une grosse fiesta, là. Ça n'a pas le choix. Fait que ça, c'est le jeudi soir. Avec le vendredi, c'est de Lauzon, de Grand Prix du samedi, fait que la storm en bas, ça va chasser.
Hey, c'est pas compliqué, tout se fait dans le mille en tabarnouche, puis je sais pas si tu te souviens, Marteau, ben, tu sais, toi, t'as commencé, me semble, au début, au tournant des années 2000, puis ouais. Moi, je tripais sa musique, tu sais, qui jouait dans ces années-là, tu parlais de Linkin Park, tu sais, gros fan. Hey, Criff, on se faisait dire, me semble, dans le temps, ces bands-là, ils perdureront pas. Ben, force est d'admettre qu'il y a quand même des gros noms qui se sont démarqués des années 2000, puis je suis content de voir que t'ajoutes ça aussi, une petite twist rock à tes festivals.
Ben, on s'est vérité, man. J'ai fait un saut, tu sais. Ça faisait longtemps que j'étais pas allé à Nashville. Puis quand on est retourné l'année passée, on a fait le saut. Il n'y a pas beaucoup de country à Nashville. C'était ça un peu notre joke. Quand on entrait dans un bar puis qu'il y avait du country, on riait parce que c'était rare.
OK.
C'est vraiment, il y a une vague de classic rock. Ben, classic rock. Pour nous autres, c'est le rock actuel, tu sais. Si on pense à, je sais pas, Puddle of Mud, Linkin Park, Stained, tu sais. À ce temps, c'est rendu du classic rock. Ça fait quand même 20-25 ans de ça, hein, ces bandes-là. Mais pour nous autres, c'est notre rock actuel. Mais
ben oui.
C'est, c'est cette vague-là qui est le classic rock à Nashville. Je sais que c'est dur à imaginer, mais il n'y a pas beaucoup de country à Nashville. Puis quand on rentrait dans un bar, on a vu que tout le monde était bien en cow-boy, mais ça s'amuse sur du Linkin Park, ça s'amuse sur du Guns N' Roses. Fait que c'est ça que je veux amener. La vraie game de Nashville, je veux l'amener à Saint-Victor pour la Storm, puis ça connecte, parce que si t'écoutes du Matt Lang, c'est comme du beat, c'est du rock'n'roll, ça fit avec ces bandes de rock-là qu'on aimait il y a 20 ans.
C'est clair, ouais. Mais de plus en plus, justement, c'est ça, il y a une convergence dans ces deux styles-là fit ensemble. Parle-moi, ça coûte combien si on va aller là? J'imagine qu'il y a moyen de faire un deal si on y va les trois jours. Comment ça fonctionne et laisser passer?
Ouais, comme là, les prix augmentent dimanche, mais présentement, sur countrystomp.ca, 60$, tu peux avoir accès à tout le week-end. On met tout le temps ça accessible, comme la Storm à Saint-Gilles ou la Storm à Saint-Étienne. On veut vraiment 1000 personnes. Là, fait c'est vraiment accessible. Pour 60$, c'est ton week-end. Tu peux t'as des billets journaliers aussi pour si tu veux juste venir voir Phil Lauzon. Ben non, le lendemain, Francis de Grand Prix. Mais d'habitude, le monde débarque pour 3 jours. Tout le temps. C'est pas douillet, là, de nos affaires. Là. Ça brasse. Le monde est en feu. C'est très festif. On dirait vraiment, là, la crowd, vraiment 18-30 ans, capote sur le... Tout le mouvement New Country, et des fois, j'ai presque peur que ce soit trop populaire. Là. C'est très, très populaire. Fait qu'arrivé de bonne heure les trois soirs, ça va être le fun.
Puis c'est pas proche de s'essouffler non plus. T'sais, nous autres, on est arrivé peut-être un peu plus tard que les États-Unis, évidemment, avec ce mode-là. Mais quand même, tu le sens, toi, de par la demande. Là. C'est pas proche de s'essouffler pantoute.
On avait comme un décalage de 20 ans. Hein? On était vraiment décalé par rapport aux States. Là, notre décalage est moins pire, peut-être 5 ans, peut-être. Fait que non, la wave, la trend, elle va être vraiment longue. Au Québec, puis en plus, tu connais un peu Morgan Wallen, ouais. Oui, c'est du country, mais si t'analyses, c'est des beats de hip-hop. Là, autant Beyoncé arrive avec du country pop, ça va faire encore exploser le country. Là. C'est tout, Post Malone a préparé un nouveau spectacle aussi country pour le Coachella Country à Stagecoach en Californie. Fait que quand tous les artistes de pop se mettent à faire de la country, c'est que le country, on a vraiment pour une longue période. C'est un cycle, ça a comme sauté une génération. Hein. C'est vraiment des 18-30 ans qui capotent là-dessus. On n'écoute jamais la musique de nos parents. Hein. Fait qu'on dirait que le switch, ça a sauté une génération. Là, les tribus de country sont très, très jeunes. Ouais.
Ouais, c'est clair. Puis, non, c'est ça, c'est vraiment intéressant. Puis, dans le temps, rappelle-toi, c'était plus campé. Tu écoutais du rock, du metal, ou t'écoutais du rap et du hip-hop. Maintenant, on dirait que justement, les gens se rassemblent autour des beats qu'ils aiment. Puis, tu sais, il n'y a plus de lui, il ne fit pas dans le décor. Non, c'est vraiment une patente où tout le monde embarque. Puis, encore là, parle-moi encore de la tranche d'âge. C'est quoi, 18-30 même? Tu sais, c'est ça, ça ratisse large. Là, à peu près tout le monde tripe sur ce beat-là.
Ouais, vraiment. Puis, t'as raison. Tu sais, quand on était plus jeune, c'était vraiment. Les tripeux de hip-hop étaient ensemble. Les métalleux étaient ensemble. C'est vraiment divisé. Là, si on pense juste à Luke Combs, les tripeux de rock'n'roll aiment aussi Luke Combs. Parce que si t'analyses les tunes de Luke Combs, c'est du rock. T'sais. Oui, ça a une twist de country. Mais parce que le country est tellement rendu large, man. C'est sûr que des fois, j'ai des chums qui vont me dire, ouais, je sais pas, là, le country. Je sais, ouais, mais t'aimes le hip-hop, écoute Morgan Wallen, écoute Breland, tu vas aimer ça. Il y a tellement de. Il y a même du country metal à ce temps avec Corey Marks. Fait qu'il y a tellement de styles. Moi, c'est plus Zach Bryan, Tyler Childers. Fait que là aussi, il va y avoir Félix Poulin-Roy, il va faire des hommages à Zach Bryan pendant la Storm. Fait que pour tous les tripeux, oui, de country pop, mais de country plus traditionnel, là aussi, il y en a. Là, pis c'est tout le temps avec de la bière, cette histoire-là.
Mais
ça frange partout.
Ah, qu'est-ce que j'aime ça, vous dites, à peu près tout ce qui tourne autour de l'univers, j'aime ça. Hey, toi, justement, t'as ça qui te coule dans les veines, la musique, évidemment, tu sais, c'était dans ta famille, t'es capable aussi de jouer d'instruments. Quand est-ce qu'on va avoir droit à un marteau sur le stage et nous offrir de la perfo? Il me semble que ce serait cool.
Hey, c'est drôle. Je jouais des fois de l'orgue avec Bob Bissonnette. Ouais. J'ai fait un peu de banjo aussi avec le Unplugged Band. Là, tu sais, j'aide beaucoup mon chum Phil Lauzon. Je suis en train de développer aussi David Pinault, un nouvel artiste. Et c'est vrai, je suis tout le temps autour de tout ça, mais j'ai pas mon band, on dirait. Mais ça me tente pas vraiment. Moi, c'est particulier. C'est, je joue du banjo, je joue de l'orgue, je joue de la mandoline, de la guitare, de la basse, je joue de tout ça.
Ouais.
Mais j'aime pas ça pratiquer. Je serais pas bon dans un band, je pense. Je serais vraiment, je serais jamais aux pratiques. Quand c'est le temps de faire un spectacle, oui, j'aime ça, mais tu sais que c'est très particulier, mon cas. Je suis bon, mais je pratique pas. Ben, c'est ça la phrase.
Toi, grinder, mettons un riff, là, 7, 8, 10 fois de fil, c'est pas tellement ton fort.
Ça. Ah, ça m'endort. J'aime pas ça. Faire 100 fois la même tune, ça, je sais pas. J'aime vraiment pas ça. Je suis content que des artistes soient capables de le faire à ma place, mais moi, c'est vraiment pas ma place. Mais tu sais, développer des events, des festivals, ou vraiment croire en des artistes pour les faire exploser, là, ça me craint. Ça, j'aime beaucoup ça. Mais tu sais, quand des chums m'invitent à jouer de la guitare, ben oui, je vais y aller, mais je te garantis qu'on se pratiquera pas deux semaines avant. Ça, j'aime pas ça.
Non, ça va être on the spot. Hey, je le sais que t'es un gros tripot du Cinco de Mayo. T'es un grand fan de Mexicano. Est-ce que tu prévois faire quelque chose cette année ou si avec le Country Storm et toutes les autres obligations, on met ça un peu de côté?
Ah, c'est drôle que tu dis ça. On avait amené ça quand même très gros à Québec avec le Cinco de Mayo. Personne s'en était occupé, mais on recule quand même, il y a peut-être 10-15 ans. Puis avec la salsa, avec tous les restos mexicains puis Tex-Mex à Québec. Mais rappelle-toi, le Cinco de Mayo qu'on faisait, c'était 5 repas à 5$ pendant 5 jours. Mais c'est pas de quoi il y a 40 ans, là. La dernière édition c'était 2020 avant la pandémie, genre.
Yes,
ouais. 5, on pourrait plus refaire ça, je pense. Mais on dirait que la pandémie m'a. J'arrêtais en 2020 Cinco de Mayo. Je sais pas, t'as raison, j'ai pas redécollé. Personne n'a pris la relève non plus.
Ouais. Ben non, mais c'est ça, mais c'est ça exact. Puis ultimement, je veux dire, tu peux pas être à 1000 places à la fois.
Non,
là.
Exact. Mais c'est pas à moi. Là, c'est le Cinco de Mayo est planétaire. Fait que si on recule, il y a 10-15 ans, personne s'en occupait. Admettons, j'étais probablement un des premiers qui s'intéressait à ça. L'histoire est quand même drôle. C'est genre notre fils, on l'a fait au Mexique à Cancun. Fait que Eduardo, t'as tout le temps René, quand t'es en Beauce. Tout ce qui était gardiennage, c'est tout des Mexicaines.
Okay.
C'est vraiment là que Eduardo, ses premiers mots, c'était agua, agua, la nariz. Fait qu'on était là, on a vraiment un bébé mexicain. Fait que puis il y avait une grosse voix, je sais pas pourquoi. Fait que, genre,
il a hérité de la mère, c'est ça, non?
C'est ça un peu, mais t'es comme mis à m'intéresser au Cinco de Mayo, puis je comprenais pas. C'était tellement gros aux États-Unis, le Cinco de Mayo, puis il n'y en a pas à Québec. Fait que ça m'a. Je sais pas, je voulais starter ça, puis on, à la fin, on a peut-être linké 12 restos Tex-Mex à Québec, Lévis. Même, il y avait le Taco Bell à l'époque à Lévis. Quand
ben oui.
C'était un bon Taco Bell. Oui. Fait que, c'est ça. Fait que, bonne question. Pourquoi je fais plus le Cinco de Mayo? J'ai pas de réponse, man. Je suis comme passé à autre chose. Tu vois, la pandémie m'a tué sur ce projet-là.
Wow, on va le considérer sur hold de le temps que quelqu'un ramasse le projet. Hey, tu sais pas quoi, man? Je me suis pété l'autre fois. C'est quoi? Ça faisait peut-être quelques semaines quand t'avais passé avec Richard Martineau.
Oh,
excuse-moi, man. Faut que je te redise encore une fois que je t'aime. Ça n'a pas de bon sens. C'était trop puissant, ça. La photo de Martineau à côté de la TV, c'était capoteux, là.
Ah, man. Ça, là, c'est à voir et revoir. J'en parle souvent avec mes chums. Des fois, pas qu'on est down, mais tu sais, on fait un projet où ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un gros show. Là, il faut se remotiver. Je regarde cette émission-là. J'étais à mon meilleur. Ça a juste pas de sens ce qui est arrivé avec Richard Martineau. Puis, il est en deux épisodes sur les YouTube. Vous pouvez voir ça. Marteau Napoli, Franck Tireur, Richard Martineau. Tout est irréel dans cette émission-là.
Ah, lui, il a fait un esti de saut quand il a vu le monde qui l'aimait. Il s'attendait pas à ça pendant tout, d'après moi.
Mais tu sais, même Jeff Fillon me disait, fais pas cette émission-là. Ma mère avait beaucoup peur. Elle était là, c'est ta fin, c'est fini. Elle était là, non, je vais la jouer souriante, t'es sûr. Il s'attend tellement à avoir un débile non fonctionnel que je vais jouer tout le contraire. Je vais tellement être heureux. Ma gang va tellement. On va lui donner trop d'amour. Fait que quand il est arrivé chez nous, là et tout, il a vu que. J'habitais pas dans un tipi avec c'était vraiment une vraie vie.
Ben oui.
Quand t'allais en show, c'était un spectacle, puis Marc-Claude Bourbonnais, elle pensait tellement bien, man. Puis, tout le monde lui a tellement donné d'amour à Richard Martineau que ça a fait une émission incroyable. J'ai fait et toi avec Jer Alain, son podcast, il y a pas longtemps. Hein. Ça aussi, c'est excellent. Des fois, je raconte des histoires, on dirait que c'est pas ma vie. On dirait que c'est, tu sais, des trucs arrivés il y a 15 ans, il y a 20 ans. Toutes les histoires de tournée, on dirait quand je les raconte, là, il y a plein de mes chums qui savent même pas toutes ces histoires-là. C'était juste débile, là. C'est fou que. Tu sais, je me suis jamais ramassé en prison, c'est fou, man!
Moi,
quand je raconte ces histoires, ça me permet de redécouvrir toutes mes histoires.
Man, il y a encore de la place pour des wet t-shirts, des patates dans le cul. Genre, j'ose espérer, man. On peut pas avoir perdu notre relève, là.
Tu sais, je suis en train de travailler avec David Pinault. Retiens ce nom-là.
Oui.
Ce gars-là, un espèce de rock très rassembleur, un peu folklore aussi, des beats de fiesta. Je travaille sur sa mise en scène de son nouveau show. Oui, ce gars-là a 20 ans de moins que moi, mais quand on parle de lance-flammes, on parle de poupées gonflables, on parle des mêmes affaires. Fait que ça existe encore. Ça m'a juste pris 20 ans avant de trouver ce gars-là. David Pinault, lui, il est là. Il va mettre le feu au Québec, man.
20 ans pour trouver le gars, mais 20 minutes pour retrouver la crowd, ça, c'est sûr et certain, parce que tu vas voir, ça va pogner, c'est clair. Hey, je veux pas abuser de ton temps, mon chum, mais à quelle place qu'on va si on veut des tickets là, pour l'événement ce week-end, le Country Storm dans Beauce, à quelle place c'est le plus facile?
Ouais, c'est le week-end prochain, 28, 29, 30 mars, à Saint-Victor-de-Beauce, pour les tickets, les infos, countrystorm.ca. Tu veux voir Francis de Grandpré, tu veux voir Phil Lauzon, tu veux voir Tommy Collin. Tous les meilleurs chanteurs de country au Québec sont là, puis ça va être un beau festival. Ben, c'est le premier festival de l'été.
Oui. Ça a l'air moins d'être ça depuis une semaine, mais on va y aller comme ça. Moi, j'adopte j'adopte ça. Hey, merci ben gros, Marteau, man, puis on remet ça bientôt. C'est le temps plaisant de jaser.
Super, puis on va sûrement jaser de hockey prochainement aussi. L'automne prochain, on a de la job qui s'en vient.
Hey, mais c'est clair, le chum Fortin, Babu, puis tout ça, ça va être rien que trippant. Merci encore, mon chum.
Salut,
mon chum! Salut! Yes, c'était Marteau Napoli, le maître de l'univers et un de mes chums, évidemment, que vous avez reconnu, personnage de radio que à peu près tout le monde connaît à Québec. On s'arrête au retour, ça va être notre ami Martin Desjardins à qui on va parler de soi écolo. Donc restez là, vous écoutez Politique Correcte.
La playlist de l'alternative.
Pizza Salvatore et mon menu aussi.
C'est JMD 96.9 Lévis.
Vous écoutez Politique Correcte.
Le 35e Salon Expo Habitat Beauce se tiendra du 22 au 24 mars. C'est pas mal ce week-end dans le Parc technologique de Saint-Georges. Plus de 60 exposants prendront part à l'événement. Allez faire un tour et rendez-vous au kiosque Trévis. D'ailleurs, nos couleurs sont du côté de Trévis, encore une fois aujourd'hui, pour rencontrer l'équipe dynamique et hyper professionnelle de Trévis qui saura bien vous conseiller. Vivez avec une longueur d'avance avec Trévis, nos partenaires qu'on aime d'amour. Et on vous encourage à aller les voir. Encore une fois, je le répète, c'est le 35e Salon Expo Habitat Beauce. Donc, du côté de Saint-Georges, ce week-end, allez faire un tour. Hier soir, je grattais un petit peu la guitare. Tu sais, c'est ce que je fais depuis un petit bout de temps. Puis, je m'amuse à jouer des trucs un peu rétro.
Mm-hmm.
Ben là, tu sais, un peu rétro.
J'ai embarqué dans ta gang. Là.
C'est ça, je parle pas des Rolling Stones, mais un peu plus récent. Et notamment, j'ai redécouvert une chanson qui était une œuvre d'art, selon moi. Je t'aime et tu ne le sauras jamais des bébés. Moi, j'aime bien cette chanson.
Ça fait drôle à dire pareil, mais c'est vrai qu'elle est bonne, man.
Chris, de belles chansons. Les accords, l'espèce de build-up est intéressant, le fait qu'on finisse avec la guitare électrique. Bon, je vais arrêter d'en jaser, mais ceci dit, j'ai pété ma grosse corde hier en jouant des bébés. Un peu bizarre. Je sais que ça sonne bizarre, là. Mais j'ai littéralement pété une corde de guitare en jouant des bébés. On va aller au bout du fil jaser avec Martin Desjardins. Puis je suis curieux, Martin, es-tu un musicien? Parce que t'as quand même plusieurs cordes à ton arc. Puis d'après moi, t'as déjà gratté ou t'as déjà taponné ça. Est-ce que je me trompe?
Pas très, très guitariste. C'est plus piano, moi.
Ah ouais? Puis piano, ouais, vas-y.
Moi, jacobianais, souvent, c'était plus des accords. C'était pas, je suis pas un grand artiste. Je suis plus DJ, donc c'est moi qui faisais plus la musique. C'est moi qui s'occupais de matcher le son puis faire en sorte que ça sonne bien là, dans la salle.
Puis comment tu matcherais ça, toi, je t'aime et tu ne le sauras jamais, des bébés, ça prend une ambiance particulière. Là. Tu peux pas garocher ça dans n'importe quel club. Là.
Non, t'attends ça plus vers la fin de la soirée. Hein. C'est un peu plus un peu plus intime.
Yes, un peu plus intime. Non, toi, ben, t'es très performant côté sportif, ça, j'ai aucun doute. Et qu'est-ce qui s'en vient de bon pour toi au niveau taekwondo, mon ami?
Ben, écoute, on était dans votre région, dans la région de Québec. On était à l'Académie Saint-Louis. Un beau petit tournoi. Les locaux sont vraiment extraordinaires là-bas. J'étais vraiment impressionné. Donc, au-dessus de 450 athlètes, c'était quand même une belle journée. 7 plateaux au total. On avait de la catégorie semi-professionnelle, si on veut, là, donc des plus élevés, la ceinture noire, qu'il y a des jeunes qui ont droit à frapper au visage. On retourne au mois d'avril, deuxième semaine d'avril, je me souviens bien, là, à Victoriaville, où ce que là, on va avoir aussi, c'est sur deux jours, donc une compétition couleur puis une sélection provinciale, donc des athlètes ceinture noire, des athlètes d'élite qui vont être là. Donc, si je me souviens bien, c'est ça. Le 6 et le 7 avril. Le 6, c'est la compétition couleur. Ça, ça va être à l'école secondaire Le Boisé à Victoriaville. Et le 7, le dimanche, c'est pour la sélection provinciale. Après ça, ben il y a d'autres activités, évidemment. On retourne à Alma pour une compétition régionale au mois fin avril, 28 avril. Le 20 avril. Puis on retourne à Québec aussi la deuxième semaine du mois de mai.
Ben, tu parlais d'élite, ça peut représenter quoi, mettons? Est-ce qu'on est très bon au Québec? Est-ce qu'on fait partie, mettons, de l'élite du Canada, de l'élite en Amérique? Ça ressemble à quoi, mettons, notre élite au Canada, en taekwondo ou au Québec plus précisément?
On a quelques catégories d'athlètes qui se démarquent, mais c'est l'élite, c'est pas évident. Ça demande des entraînements très poussés, puis ça prend des clubs qui vont... Tu sais, on parle d'élite, on parle des gens qui vont faire de l'entraînement 5 à 6 jours semaine, là. Donc, si on veut vraiment performer, ça prend beaucoup de compétition. Donc, souvent, les bons athlètes élites doivent évidemment s'entraîner à l'extérieur. Ils doivent s'entraîner, vont faire beaucoup de compétitions à l'étranger aussi. On a, oui, championnat canadien, mais faut faire des Open, puis il faut voyager beaucoup. Donc, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de sous. Pas moyen aussi, d'ailleurs, qu'on aide des fois. D'ailleurs, on a un de nos associés avec Sway Colo. C'est un club de taekwondo dans la région du Lac-Saint-Jean, où on leur donne un petit coup de main pour acquérir du matériel. Parce qu'effectivement, dans les régions éloignées, c'est plus difficile d'avoir du matériel. Parce que le taekwondo, c'est pas juste... ça, c'est électronique. Hein. C'est des casques électroniques, ouais. Des plastrons électroniques. Fait que si on veut s'entraîner avec ça, ben faut l'acquérir. Ça coûte beaucoup de... Faire un plateau, c'est 10 000 minimum. Là. Fait que si on veut... c'est chaque... C'est des grandeurs plastrons, évidemment, de différentes grandeurs pour chacun des types d'athlètes. Fait que oui, ça a un impact. Fait que oui, si on veut vraiment s'entraîner, il faut s'entraîner avec les meilleurs. On a des centres de haute performance, un à Québec, un à Montréal. Il y a chaque semaine, ils ont des camps d'entraînement spécifiques pour les athlètes. Il y a effectivement des sélections provinciales, après c'est des sélections nationales et puis évidemment au niveau international. Je dirais qu'on n'est pas dans l'élite en tant que telle. On a eu quelques athlètes qui ont été très marquants, dont François Coulombe-Fortier, on a eu Karine Sergerie aussi, Sébastien aussi, Michaud. Fait que c'est des athlètes qui ont bien performé, qui sont allés aux Olympiques, mais qu'effectivement, on a eu notre seule médaille au Québec aux Olympiques, c'est Karine Sergerie qui l'a eu, cette médaille d'argent.
Ben écoute, on salue son beau travail en taekwondo, et pour être performant, ben ça nous prend un bon coach, un bon mentor. Je t'amène justement sur cette voie-là, mon cher Martin.
Oui. Ben justement, j'ai terminé cette semaine les dernières formations. Je faisais avant partie d'un groupement de personnes qui ont une cohorte, qu'on appelle une cohorte de mentorés. Donc, je faisais partie de regroupement de jeunes entrepreneurs. Puis je voyais, effectivement, j'étais le moins jeune de la gang. Donc, j'avais beaucoup d'expérience pareil, mais j'ai eu tout de suite, j'ai aimé l'approche, j'ai aimé la dynamique du mentorat, puis j'ai décidé effectivement de m'impliquer à ce niveau-là. On m'a dit d'ailleurs tout de suite, après deux rencontres, on m'a dit « Martin, je te vois tout de suite mentor », puis j'ai dit « Écoute, j'ai le goût de m'impliquer », puis j'ai commencé à travailler avec le réseau mentorat, qui est un groupement justement là, de personnes qui font justement du mentorat. Et faire une différence un petit peu rapide là, entre le je dirais la consultation, le coaching puis le mentorat.
Ouais.
D'ailleurs, mon exemple, tu veux bâtir un site Internet, puis tu veux faire affaire avec quelqu'un, mais tu vas faire affaire avec un consultant qui va faire la job à ta place. Un consultant, c'est quelqu'un qui va, oui, OK, je comprends ce que tu veux, je vais le faire.
Qui va matérialiser tes besoins un peu? Ou...
Exact, c'est okay. Ça. Donc, lui, dans le fond, il va bâtir le site ou il va faire en sorte de le bâtir à ton goût. Donc, c'est lui qui va faire le gros du travail. Un coach va plus t'assister à différents aspects, non seulement une particularité, mais tout ce qui entoure, c'est-à-dire, bon, ben écoute, au niveau opérationnel, bon, ben t'as ton site web, oui, mais comment tu vas faire gérer tes commandes, ton inventaire, tes sites, tout ça. Donc, le coach va superviser, on dirait, plus au niveau des opérations. Ça reste quand même des gens qui sont très impliqués dans le milieu. Et donc, le mentorat, on est beaucoup plus dans un autre aspect.
C'est ça. D'un côté, t'as la personne qui matérialise. De l'autre côté, t'as plus le stratège, entre guillemets, si on peut le voir ainsi.
Exact. Donc, okay. Quelqu'un qui va vraiment mettre les ficelles ensemble, qui va aider justement la compagnie à bien comprendre tous les processus, puis améliorer les processus opérationnels.
Right.
Et le mentorat, lui, est beaucoup plus l'aspect justement sur comment on dirige une business. Parce que le monde des affaires, c'est des gens, effectivement, qui sont un peu à part. Il n'y a pas énormément de monde qui sont dans le milieu des affaires. Puis, on se retrouve tous avec des problématiques, mais on peut pas nécessairement parler à d'autres personnes. Puis souvent, à un moment donné, on perd un peu le focus, on perd la vision d'affaires, on perd un petit peu les raisons pourquoi on fait les choses. Fait que, tu sais, si on peut dire un peu comme un psychologue, si on veut, mais c'est une personne qui va vraiment vous amener à vous questionner puis à vous amener à trouver des réponses. Puis même des fois, on interroge les gens sur des aspects qu'ils se sont même pas interrogés eux-mêmes. Donc, pourquoi qu'on fait telle affaire? Comme, tu sais, souvent, à un moment donné, on fait une chose, puis on la fait répétitivement, tu sais, puis on dit, ah, ben, tout le monde le fait de même. Ouais, mais pourquoi tout le monde le fait comme ça? Il y a une raison, puis peut-être que la raison aujourd'hui n'est plus valable parce que, bon, mais, il y a des nouvelles nouveautés, il y a des nouvelles technologies qui arrivent, il y a une nouvelle façon de procéder. Fait que, c'est souvent, c'est se remettre en question, de remettre en question nos processus, de répondre aussi, dans le fond, à un besoin qui, effectivement, est là par rapport, justement, à être guidé vers où qu'on s'en va, puis comment qu'on veut bâtir business. Puis ça va de différents niveaux. Ça va autant à des gens qui veulent se lancer en affaires, à ceux qui sont dans des startups, à ceux qui sont déjà en entreprise. Puis il y en a aussi ceux qui veulent vendre. Parce que vendre une entreprise, se départir de son bébé, c'est pas évident. Là. Fait que il faut se préparer aussi mentalement à dire, écoute, là, je serai plus le boss. Là, c'est plus moi. Puis c'est quoi ma vie après l'entrepreneuriat? Et souvent, c'est quelque chose qui est très, très négligé, on dirait, des gens. C'est un peu comme disait un psychologue, tu sais. On se dit jamais on a besoin d'un psychologue jusqu'au jour où t'en as besoin vraiment d'un, ou qu'on dit, garde, va d'en avoir un.
Puis souvent, en plus, quand tu y vas, ben, tu te rends compte que t'aurais donc dû y aller avant parce que ça te permet d'avoir des outils, puis mieux de comprendre aussi, d'avoir un regard critique sur ta personne.
Tout à fait. Fait que dans, tu sais, le réseau Mentorat, évidemment, c'est une compagnie à Montréal, mais il y a plusieurs points de service, dont dans votre région, vous autres, dans la région Chaudière-Appalaches, mais c'est caeconomic.com que vous allez visiter. Puis si jamais vous êtes un entrepreneur ou vous voulez lancer en affaires, vous avez besoin d'un guide, quelqu'un qui va vous donner, pas vous dire quoi faire, mais vous écouter puis vous amener dans un cheminement, un processus justement qui va vous permettre justement de bien partir en affaires ou de bien continuer, de bien poursuivre ou même vous aider à vendre votre entreprise. Ben il y a des services qui s'offrent comme ça qui sont gratuits. En fait, c'est gratuit. Donc, c'est de l'accompagnement qu'on fait. Et dans la région de Chaudière-Appalaches, c'est ça, c'est caeconomic.com. Dans la région de Québec, c'est sagementorat.com. Si jamais vous perdez un petit peu dans tout ça, allez tout simplement sur réseaumentorat.com. Vous avez accès à toutes les plateformes, tous les points de vente. Si vous avez des questions, vous avez des choses que vous voulez savoir comment ça fonctionne, c'est quoi exactement le réseau Mentorat, allez tout simplement sur le site de réseau Mentorat. Je vous le dis, c'est vraiment quelque chose qui, moi, ça m'a interpellé. Moi, ça m'a permis, évidemment, d'offrir aussi, de poser mes propres questions par rapport à ma propre business. Où est-ce que je m'en vais? Tu sais, je suis quand même propriétaire de 4 entreprises différentes. Mais comment je roule ça? Où est-ce que je veux m'en aller? C'est quoi mes objectifs réels? Ça m'a permis vraiment de bien guider de cette façon-là, assez que, ben oui, j'ai goût d'aider des gens à ce niveau-là parce que je pense que ça vaut la peine de prendre du temps, de réfléchir, puis de savoir effectivement c'est quoi qu'on veut, où est-ce qu'on s'en va, puis on devient une meilleure personne aussi, puis on améliore notre sort, puis on améliore le sort de nos entreprises.
Ben, trop souvent, justement, exact, on est dans la poutine quotidienne, ça va vite, on le sait, on a nos enjeux, tout le monde, et de pouvoir prendre un pas de recul, des fois, ça nous permet justement d'optimiser un petit peu nos processus, puis de, t'sais, en fin de compte, de gagner du temps, puis sortir un petit peu la tête de l'eau. Hey, parle-moi un petit peu aussi de Soie Écolo, s'il te plaît, parce que t'as quand même une belle gang là, qui veulent commanditer, c'est le projet Rose des Sables, c'était ça qu'on se jasait tantôt, Martin?
Ben, en fait, il y a plusieurs demandes. On a eu plusieurs demandes. Une qui se concrétise dans les prochaines semaines. C'est un groupement de jeunes femmes de la région d'Outaouais qui veulent participer, dans le fond, au Rose des Sables. Donc, c'est un défi dans le désert où ce que les deux personnes partent en Jeep, puis ils ont un tracé. Donc, ils partent avec une boussole puis une carte, puis c'est pas de GPS, pas d'Internet. Donc, ils doivent se rendre à un endroit bien précis. Et, ben, l'objectif, évidemment, c'est de faire des levées de fonds pour différentes causes. Et eux ont besoin de lever des fonds pour, justement, être capables de se lancer, de se rendre jusque là-bas. Donc, ils ont besoin d'un certain montant pour bâtir ça. Fait qu'on est en train de finaliser un peu leur projet, de bâtir le plan marketing avec eux et de les introduire évidemment sur le site de Soie Écolo. Donc, on va avoir des nouveaux partenaires qui se rajoutent avec nous autres. C'est des belles activités. C'est ça qui me fait plaisir dans Soie Écolo, c'est que je rencontre plein de gens qui ont des projets, qui ont des idées, des gens dynamiques, qui ont le goût de faire avancer des choses. Puis moi, j'adore travailler avec des gens qui veulent avancer. Moi, du monde qui tourne les pouces, qui trouve toutes sortes de défaites pour avancer. Je veux dire, Moi, c'est pas ça. Fait que quand j'arrive avec des projets comme ça, ça ferait vraiment. D'ailleurs, on a rendu avec 25 kits, 25 ensembles de produits différents. On est à Paris de des fêtes, donc on a un nouveau petit kit ensemble qui s'appelle la saison des sucres avec quatre sortes de sirop d'érable différents de la compagnie Maddy, Virgin Maddy. On a aussi des petites bombes de chocolat chaud en forme de castor, mais quand tu mets ça dans l'eau, dans le chocolat, dans l'air chaud, dans l'eau chaude, ben ça te fait un chocolat chaud au sucre. Donc, c'est vraiment le fun. On a la Journée de la Terre qui s'en vient aussi au mois d'avril. Donc, on a un beau petit kit qui s'appelle la Journée de la Terre. Donc, on essaie d'être écolo, hein, c'est ça qu'on dit.
Ben, mais hein, puis c'est très gentil d'ailleurs de me mettre l'eau à la bouche, genre deux heures avant que je choupe, là, j'apprécie Martin. Hey, mais si jamais on veut justement, ben que ce soit, on a une levée de fonds à faire ou peu importe, on veut te communiquer, on veut rentrer en contact avec toi, c'est quoi la façon la plus facile, Martin?
La façon la plus facile, c'est soit écolo.com. Écoute, on a en plus justement plein de nouveaux projets, plein, tu sais, je t'en avais parlé vite, projet de collectif pour la conduite éco-responsable.
Oui.
On est cette semaine, on est justement la semaine de la prévention, justement de la conduite
en état d'ébriété.
Donc c'est cette semaine ça commence, et puis eux sont partenaires avec nous, ça fait 5 ans qu'ils sont là-dedans. Ils ont participé d'ailleurs c'est Odette Lachance qui s'occupe de ce projet-là. C'est ça, la semaine nationale de la prévention de la conduite aux facultés affaiblies du 17 au 23 mars. Ils ont participé à l'émission Salut Bonjour Week-end. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus et les encourager dans ce processus-là, évidemment, sur Soi Écolo, donc vous allez pouvoir les voir. On a accès aussi sur leur site Facebook. Vous allez pouvoir voir leur entrevue qu'ils ont faite. Bref, on a plein de belles causes à découvrir. Puis si vous voulez, effectivement, vous avez une cause, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, puis vous voulez nous en parler, puis qu'on vous donne un coup de main à vous lancer dans des campagnes de financement, dans des campagnes, tu sais, je veux dire, j'ai l'Université de Montréal qui sont avec nous autres, l'association en pharmaceutique de l'Université de Montréal. On a la Société Saint-Vincent-de-Paul de Montréal. On a des fondations cancer du Québec, cancer du sein du Québec. On a la Société franco-ontarienne de l'autisme. Vous voyez, c'est très large. On va un peu partout. Fondation Mère avec pouvoir, les fondations Verrou et Louis. On a plein de fondations qui font affaire avec nous. On a plein d'organismes. Parce que c'est pas juste les grosses fondations, les petits, des clubs. On a même une école là, qu'on est en train de négocier avec eux. C'est un toujours le programme du PEI pour les étudiants qui veulent aller en voyage en fin d'année. Un voyage étudiant dans un autre pays. Donc, bref. C'est vraiment ouvert à tout. Amenez vos projets. Si vous avez vraiment des idées qui sont intéressantes, on va vous aider aussi à bien modeler, à bien marketer, cibler la clientèle que vous voulez, avoir les bons textes, puis on va vous aider. On peut faire des paquets cadeaux, on fait des paquets cadeaux spécifiques. On peut trouver des façons de vous aider à faire un plan de match ou un nouveau marketing. Savoir comment qu'on fonctionne avec le site web, avec votre page Facebook, avec les différentes publications. Fait que bref, on est là pour aider des gens, puis c'est ça que j'aime beaucoup faire. C'est un peu ça avec le mentorat que j'ai décidé de faire, c'est d'aider des gens, donc c'est ce que je fais. Je le fais à toutes les sauces.
C'est génial. Hey, un grand merci, Martin. Puis d'ailleurs, si tu réussis à faire un trou dans ton agenda, viens nous voir, ça nous fait toujours plaisir de te serrer la pince.
Ben parfait, bien sûr.
All right, merci, c'est bon. Là. Merci, bye-bye. C'était Martin Desjardins de Soi Écolo. Nous, on s'arrête quelques instants, quoique... Non, c'est pas vrai, on s'arrête pas quelques instants. Faut quand même que je fasse une nouvelle aujourd'hui parce que tout le monde le sait, hein, bon. Oh, toi, t'aimes ça casser du sucre sur le dos à Bruno Marchand? Pas tout le temps.
Non.
Tu sais, je suis quand. Non, c'est vrai, je suis quand même assez modéré dans le cas de Bruno. Quand Bruno fait un bon coup, ben, tu sais, j'y donne. Et Marchand dénonce l'ingérence politique de la CAQ dans le dossier du tramway. L'explosion des coûts, l'allongement des délais du tramway de Québec ont été causés par l'ingérence politique du gouvernement de la CAQ, a incité Bruno en refusant de prendre quelconque blâme personnelle dans cette situation. Sais-tu quoi? Il a raison. Si c'était pas de l'ambivalence de la CAQ, puis de je le sais-tu, je le sais pas, puis de oui, puis de non, puis on fait ça un pont, on fait pas de pont, on arrive tout ça avec le tramway va aller où, va passer là, il passera pas là, faut-tu couper des arbres? C'est-tu quoi? Si ça avait pas été de la CAQ, probablement que ça aurait moins branlé dans le manche. Là où je suis peut-être un petit peu moins d'accord avec lui, c'est quand il dit quand le politique s'en mêle, quand le politique change en cours de projet la portée, change certains éléments forts du projet, ça retarde, ça coûte plus cher, et honnêtement, ça affecte l'appui. Oups, il y a juste le dernier mot avec lequel j'ai un peu de misère. Ça affecte l'appui. Bruno, il n'en a pas d'appui pour le projet. Il est là le problème depuis le début. Tu sais, Le problème, oui, le branlage dans le manche, évidemment que ça a certainement pas aidé, mais est-ce que c'est ce qui a nui à l'appui? Pas tant. Moi, je pense qu'au bout du compte, bien des gens sont contents que le projet soit sur hold et présentement qu'on regrette un peu les papiers et qu'on regarde ça, comment on va enligner tout ça. Mais oui, au final, ça a branlé à cause du gouvernement en place, ça, je suis bien d'accord avec toi, mais de dire que ça a eu un impact sur l'appui, à la limite, là, pas tant, non, pas tant, pas certain que ça a eu un impact sur l'appui. Puis je pense que l'appui, là, eh ben, il est encore temps de travailler là-dessus, puis l'impact que tu vas avoir positif sur l'appui, si t'es capable de mieux communiquer encore une fois le projet, d'user de transparence, puis de pas aller crossoyer des chiffres de sondage.
Tu crois encore à ce projet-là?
Ben là, il est même de la caisse de dépôt, là.
Ouais, ok.
Fait que, tu sais, moi, je pense qu'il faut améliorer la mobilité à Québec. Ça, c'est clair. Maintenant, est-ce que ça passe par un tramway? Pas certain. Je pense qu'il y a moyen d'utiliser un peu plus de flexibilité avec les outils qu'on a en place présentement. Tu sais, il y a un paquet d'aspects derrière tout ça. Je suis loin d'être un urbaniste aussi, là. Mais au final, que le projet ne soit pas appuyé par la population, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il branle. Tu sais, ça a à voir avec les coûts astronomiques, ça a à voir avec le fait qu'il accommode pas tout le monde, ça a à voir avec le fait que la communauté d'affaires se sent un peu laissée de côté dans ce dossier-là, de par le fait qu'il y en a pour qui ça va empiéter sur le terrain puis couper leur clientèle. Ça, je suis d'accord. Mais au final, l'appui n'a pas tellement à varier en fonction du fait que le gouvernement s'est mis les mains là-dedans, oui ou non. Mais, tu sais, forcé d'admettre qu'il y a encore des gens, beaucoup de gens, qui sont payés pour travailler pour le projet de tramway. Là.
Mm-hmm. Ouais, mais on doute encore de l'utilité du tramway, puis donc de l'équipe qui travaille dessus. On ne sait pas pourquoi.
Ben, en fait, qu'est-ce que ces gens-là font présentement? T'sais, si la caisse de dépôt a mis le pied sur le break, pourquoi il y a encore des employés qui punch in, punch out à chaque jour pour en fonction du tramway? Je comprends que c'est de l'expertise qu'il ne faut pas perdre, mais je te l'ai déjà dit, là, un beau PDF, un fichier de 300 pages, puis on transfère ça au prochain. Là, ça mm-hmm. devrait ressembler ouais, à ça, oui. Plus qu'on garde notre monde justement à travailler. T'sais, qu'est-ce qu'on fait présentement au bureau de projet de la Ville de Québec? I don't know, là, pour ce qui est du tramway, je sais pas.
Est-ce que ce projet-là va avoir une rentabilité pour...
Il n'y a jamais un projet de transport en
commun. Non, mais je me pose la question. Okay, donc, c'est jamais rentable. Donc,
ben, c'est tout le temps parce c'est que, un problème. C'est sûr que, mettons, au day-to-day, ouais, mais tu sais, la RTC, c'est la même affaire. Là.
Ouais, mais je sais, mais c'est justement, j'en viens à là.
C'est notre tissu social, là. Je veux dire, il y a des fois qu'il faut se griller. Notre système de santé nous coûte plus cher que ce qu'il nous rapporte. En fait, il nous rapporte pas grand-chose. Ouais. C'est que, tu sais, oui, c'est des puits sans fond, entre guillemets. Par contre, il y en a d'autres qui vont dire, ben, tu sais, ça amène, tu sais, ça facilite le tourisme à Québec. Donc, ça amène des achats dans des entreprises. C'est que c'est pas quantifiable, exemple, les retombées économiques que ça peut avoir. Mais oui, c'est sûr et certain que c'est
un... Mais tu sais, un chauffeur de taxi gagne sa vie en faisant du transport en commun. Ben, toi, tu pars en commun, mais du transport.
Oui.
Donc, on pourrait peut-être s'inspirer de ceux-là qui font de l'argent pour être capable de n'en faire. Enfin,
essayes-tu voir 25$ l'étiquette d'autobus non, partir de Val-d'Aller et t'en aller?
Je te dis pas d'exagérer dans tout, mais il doit y avoir une façon intelligente d'y arriver.
Ben, je pense qu'il y a moyen de...
Ou si on est vraiment pour une perte, ben, que ça soit gratis. Hein,
bon, je pense que là, tu viens de tomber sur quelque chose, puis c'est exactement ce que le Parti conservateur du Québec proposait. C'est ce qu'Éric Duhaime a dit. T'sais, tant qu'à ce qu'on ait un gouffre financier avec les transports en commun, Chris, mettons ça gratuit, de cette façon-là, on risque d'encourager les gens à le prendre, de changer les habitudes et d'améliorer la fluidité du trafic.
Pis mais coudonc,
on l'écoutera pas, Éric, il n'y a pas de bonnes idées économiques qu'il y a de bord. Mais non, c'est ça. Puis tu sais, les gens qui vont prendre l'habitude de prendre le transport en commun, ils ne tasseront pas nécessairement ça une fois que, mettons, on enlève la gratuité dans 5 ans. On dit, on va mettre ça gratuit 50 ans, on va le tester, puis par la suite, on verra l'effet. Mais la personne, ça fait 5 ans que sa mobilité se fait en bus. Je verrais pas pourquoi elle changerait ses habitudes. Par contre, présentement, quelqu'un qui tape sur son steering dans le trafic, il est peut-être en train d'y penser de prendre l'autobus. Puis si c'est gratis, ben au final, il n'aura pas besoin de garder le char. Ou ben non, oui, un auto sur deux.
C'est beaucoup une voiture. Là, c'est beaucoup d'argent. Pour une famille, deux chars, là, c'est...
Tu l'as déjà dit, moi, regarder mon char parqué dans la cour, puis penser aux plaques, penser à l'assurance, penser à la dépréciation de la patente, penser au fuel qu'il faut que je mette dedans. J'ai pas tant le goût que ça de le rouler. Moi, si j'étais capable de pouvoir embarquer dans l'autobus gratis puis que ça se fasse facilement, puis que je sois rendu à mon lieu de travail, je comprends que c'est pas tout le monde qui peut le faire, mais il y a certainement moyen d'inciter le monde à le faire puis passer par la gratuité, alors que c'est un projet, un produit qui présentement fait, c'est clair qu'il fait pas ses coûts. Ben,
mais non, puis qui est déjà payé par la population de base, parce que exact. C'est ce que je pense.
Ben, c'est payé par les taxes de l'essence et de, en grande partie. Ouais. Je veux dire, nos routes sont payées par les taxes sur le fuel, puis les autobus, c'est un peu le même. C'est ça, c'est un peu le même principe. Ça finit tout dans le même panier. Sauf qu'il y a le panier tout le temps vide. Hein, ce qui se passe là, on en met dans le panier. Pourquoi c'est que c'est qu'il est vide? J'en mets du fuel.
Là, ça clique.
C'est ça. Oh my God, hey, inquiète-toi pas, là, on est en train de scanner tout ce qui est tes dossiers médicaux. Là, tout est en train de se faire.
Junette est là-dessus.
Ah oh, oui, chat GPT. All right, hey, on s'arrête. Guillaume, à tes côtés, s'en vient. On retourne. Vous écoutez Politique Correct.
Talk rock et hip-hop.
Centre national de conduite d'engins de chantier.
Talk rock, hip-hop.
La manette! La vois-tu?
Non.
Moi, j'ai François Legault dans
la face. Chris, mon gars, tu peux pas plus l'avoir d'en face, la manette.
T'entends pas. Oh!
Direct en avant de toi.
Hello! Bienvenue dans la partie avec moi. Dans le retour, bonne fin de semaine à CGMD. On a comme un shift qui se coupe. Les jeux de redi, demain à même heure, ça va être le party 969 pour titats, avec Dom Perrault. Un show qui roule à plein et qui devient toujours de plus en plus populaire parce que peut-être qu'il parle pas de François Legault. Ça plus d'écoute que Politigui Correct, ça. Politigui Correct va très bien. J'ai regardé les statistiques récemment. Aussi, vous êtes des milliers de personnes à l'écoute à chaque jour et c'est extrêmement apprécié. On aime ça que vous nous textiez aussi 418-903-5969. 418-903-5969. On a T-Butch aujourd'hui comme invité, un boxeur. On va faire du sport, Chico.
Yes, ben on a fait un petit peu avec Martin, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai, du karaté dans son
temps. Taekwondo.
Marteau, lui, il est dans le hockey.
Marteau est dans le hockey par-dessus la tête. D'ailleurs, la prochaine fois qu'on va jaser, ça va être de ça.
Ouais, le 3A, belle chasse. Sérieux, moi, je veux un hoodie.
Ah, il est beau, hein?
Ouais. Ben, en fait, ouais, je veux le jersey, mais je massacre un peu des jerseys de sport. Il est beau, mais en fait, je veux un hoodie aux couleurs du jersey.
Tu veux pas porter le chandail officiel, mais tu veux les couleurs.
T'entends que je vais porter ça. J'ai vu que Babu avait joué au hockey hier.
C'est vrai, hein? Moi, je trouvais qu'il avait l'air quand même tough. Je me suis dit, tabarnouche, ouais. Babu, il est-tu en train de passer, il s'en va-tu faire des goons, là?
Il mesure combien, Babu, hein?
Babu, j'aurais tendance à dire un genre de 5 et 8, 5 et 9.
Ouais, hein? C'est ça, tu sais. Le reach manquerait peut-être pour, mettons, se pogner qu'un...
Ouais, mais il y a du vouloir, d'après moi, hein?
Au moins, il mordrait quelqu'un.
Ah non, d'après moi, Bab, s'il laisse les gants sur la glace, là, ça va être tough. Ça va être tough de l'amener au banc des punitions, lui, là.
Je suis le seul qui a enlevé un patin pour frapper un adversaire.
Ouais, tout, puis Happy Gilmore.
Hey, c'était là, Babu, tu peux appeler aujourd'hui, on a du temps, ça serait le fun. On s'ennuie, mais on a du matériel à plein aussi avec un éphéméride, Chico.
Hey, ça fait longtemps.
J'ai des hashtags pour la revue X de plein d'acabis. J'ai un mélange de hashtags puis de titres de la presse. Mais 1804, on y va avec un éphéméride.
OK.
Un 21 mars, c'est-tu le printemps officiellement? Il me semble que j'ai pas vu beaucoup de ça passer. Ça peut aller jusqu'au 22, hein. Mais
non, mais c'est pas un printemps précaire. Hein?
Précaire, oui. Tu veux dire précoce.
Printemps, hémisphère nord, mardi 19 mars.
OK, on est de printemps depuis deux jours. Personne n'a parlé ben parce que ça paraissait pas trop tôt.
Non.
Je vais peut-être faire une météo tantôt aussi. Mais ouais, je veux vous parler du 21 mars 1804 en France parce qu'on a adopté ce qu'on appelle le Code Napoléon. Est-ce que tu sais un peu c'est quoi?
Non.
On ne sait tous pas assez ce que ça représente que ce code-là, mais c'est aussi appelé le code civil. Ça, tu as pas mal une plus grande idée de ce que ça constitue. C'est un code de loi qui est encore en vigueur en partie aujourd'hui dans les pays francophones, mais en dehors de ça aussi, il y a beaucoup de pays anglo-saxons qui ont pris, l'Allemagne, des notions de la patente et aussi qui sont inspirés de la réussite que Napoléon avait fait de réussir à ramener tout sous une réforme les vieux codes de loi éparses et souvent géographiquement disparates. Tu sais, l'Allemagne, by the way, ça n'a pas été réunifié avant la fin du 19e siècle. Et après ça, ça prend encore bien d'autres temps avant qu'on réussisse à mettre les lois droites. Napoléon est arrivé pendant la Révolution française où les têtes revolaient. On se rappelle que ça, c'est 1789. Napoléon a commencé à prendre du galon à partir du milieu des années 1790 pour devenir le chef d'État à fin du 18e siècle. Là, en 1804, il était empereur. Il avait eu son sacre à la fameuse église Notre-Dame de Paris, où il s'est mis lui-même la couronne sur la tête. Et il a trouvé le moyen, parallèlement à ça, à gagner des batailles d'envergure jamais vues, puis avec des sous-effectifs, etc. Mais en plus de prendre tous les vieux textes de loi puis de les ramener en un, puis de botter ce qui dépassait. Là, il a réussi à... comment on peut dire ça? Lisser la chose. C'est vraiment phénoménal. Le code de loi de Napoléon, oui, il y avait des affaires qu'aujourd'hui on regarde, tu sais, comme la femme n'était pas l'égale de l'homme. Là. Bon.
Ben non, ouais, ça c'était pas mal partout.
C'est assez répandu.
En fait, les nations n'étaient pas tous égales.
Non plus, tu sais, bon. Puis il y avait de l'esclavage, là. T'es pas nécessairement si anti-esclavage que ça, Napoléon, mais tu sais, il y en avait moins que Thomas Jefferson, OK? Ou George Washington. Ça, c'est plus tard, mais... Plutôt, mais tout ça pour dire que...
Mais dans le fond, c'était le livre des règlements de la vie en société, en fin de compte. C'était pas nécessairement les sentences puis tout ce qui est...
Oui,
OK, vois-tu, je savais pas que ça ratissait ou ça.
C'était pas mal, oui. Le code des lois, tu sais, puis des procédures également. Et c'est drôle que je sois tombé là-dessus tantôt aussi parce que j'ai rêvé à sa tombe cette nuit que j'ai visité aux Invalides il y a un an et quelques. Et dans mon rêve, c'était vraiment beaucoup plus grand que ce que c'est. Ouais, tape-le, Invalide tombe de Napoléon. Tu vas voir l'image. C'est comme une espèce de... Ben, il est dans une place où t'as un dôme, là.
C'est un genre de tombeau de bois, si on veut.
Mais c'est en marbre, je pense.
Ah oui, OK, c'est juste que c'est brun.
C'est ça. Puis, c'est circulaire. Autour, tu sais, tu te promènes. Puis, il y a justement une mention à un moment donné où il dit « J'ai fait un texte de loi pour que le fonctionnement social soit amélioré. » Quelque chose comme ça. Là, j'ai pas la citation exacte. Ça fait un an et demi que je suis allé. Ils se vantent de certaines autres affaires tout autour de son tombeau. C'est des citations qu'on a prises pour le laisser lui-même exprimer ce qu'il avait amené comme réalisation. Puis, tu sais, dans, je sais pas, il y en a une douzaine, une quinzaine. Dans le lot, il y a évidemment le cas de Napoléon. Mais ouais, c'était beaucoup plus grand que je me rappelais dans mon rêve cette nuit sur Napoléon. Mais c'est impressionnant, pareil. Et si vous allez à Paris, vous n'avez pas le choix que d'aller aux Invalides. Ben, tu sais, généralement, ça va être dans le parcours. C'est assez central dans des quartiers où il n'y a pas de danger. Puis c'est le gros du tourisme, ce produit-là. Mais je voulais noter que... J'ai aussi vu, dans le même 5 minutes, après la tombe de Napoléon, des dièvres.
Dans ton rêve ou dans la vie?
Dans la vie.
Oui. OK.
Plusieurs.
OK.
C'était pas des... Ben, c'était peut-être des lapins retournés à l'état sauvage. Mais what the hell?
Particulier. Mais Napoléon, là, mettons, là, dans le top 100 des personnes les plus influentes de l'histoire, c'est-à-dire de l'histoire de l'humanité, il se classe là.
L'affaire, c'est que... Il faut diviser l'histoire en époques. Tu sais, si on y va avec des millénaires, il y a probablement des très grands personnages qui ont été plus influents que lui, dont l'aura maintenant a pâli, qu'on n'est pas capable de juger à la juste mesure de ce moment-là de l'histoire de l'humanité, mettons. Ben, ça peut être des dirigeants. Tu sais, comme la Chine... De la route de la soie, là, de, mettons, premier du millénaire. C'est, en tout cas, un Occident incomparablement moins connu que Napoléon. Mais pourtant, il y a du monde là-dedans qui a été influent, entre guillemets. T'sais, le mot est pas assez fort sur la vie de plus de monde que Napoléon. T'sais, on est très eurocentré.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Entrée ici, il y a de ça, là.
Mais tu sais, t'as Jésus, Cléopâtre, tu sais, quand même...
Mais... Non, mais des dirigeants grecs, ouais. Tu sais... voyons. J'en ai parlé beaucoup pendant la pandémie parce que, tu sais, Athènes, ça s'est terminé, la démocratie athénienne, avec une pandémie. C'est quoi déjà le nom du dernier dirigeant de l'Athènes démocratique? Comment c'est-tu par P? Shiznit. Tu sais, lui, il est encore très influent aujourd'hui. Son nom est pas loin, là. C'est pas que je l'oublie carrément. J'ai tout le temps Péloponnèse dans la tête, mais c'est ça, c'est des îles grecques. Lui, c'était à Athènes, le siècle... Périclès, le siècle d'or de Périclès, tu l'avais?
Non, je pense, j'allais quasiment te dropper Pythagore.
Pythagore, tu sais, bon, est-ce qui est plus important que Napoléon dans l'histoire? Je sais pas.
Léonard de Vinci, il y en a plusieurs aussi.
Non, pas autant que Napoléon.
Lui. Non, pas autant que Napoléon,
mais
ça fait
mais
partie...
Mais c'est ça, fait que là, c'est tout que des jugements forts. Mais pour moi, tu sais, des dirigeants vont passer souvent avant des Galilée ou autres savants. Encore là, ça dépend. Mais Napoléon a tellement touché à tout, puis dans une ère où la découverte s'accélérait, t'sais, notamment dans la science, il a été d'une aide incroyable. Puis il a ouvert des universités, il a développé la connaissance en général par des institutions, comme t'sais, on n'a pas pu voir souvent, mais les moyens n'étaient pas les mêmes. T'sais, Jules César, y avait-tu vraiment les moyens, mettons, fonder des universités, pas certain, mais il a fondé des institutions scolaires pareil. Donc, c'est toujours très difficile de jauger ça. Encore dans l'histoire, on va parler d'Ukraine. Je me suis fait demander comment ça se fait que t'as pas élaboré plus qu'il faut sur ce qui se produit présentement dans l'Est de l'Europe. Ça fait 10 ans aujourd'hui, d'ailleurs, que la Crimée a été annexée par Vladimir Poutine, enlevée à l'Ukraine. Je veux pas passer pour un apologiste de Vladimir Poutine, sauf que quand vous voyez quoi que ce soit qui est présenté autour de lui, dites-vous bien qu'il y a énormément de propagande à son encontre, comme lui en shoot à l'encontre de nos dirigeants, oui, aucun doute. Mais Alexei Navalny, qui est mort en prison récemment, était très favorable à l'annexion de la Crimée. C'était pas le héros qu'on essaie de nous présenter, au même titre que petit Jésus Zelensky n'est pas Jésus le Christ non plus. Mais là, ouais, les renseignements russes ont sorti, j'oublie le nom du gars en particulier qui a fait la conférence ou tenu le propos, pour dire que les Français s'apprêtaient à envoyer des troupes, des milliers de soldats français dans le théâtre des combats en Ukraine, carrément. Okay? Les Français ont nié, ils ont dit que c'était de la désinformation russe. Peut-être. Les Russes font effectivement de la désinformation, comme nos médias en font régulièrement, au service carrément de l'État. Mais j'ai tendance à croire ça. Okay? Si tu veux envoyer des troupes, tu peux pas l'annoncer trop spécifiquement parce qu'ils vont être faciles à viser dans leur transport pour se rendre sur place. On sait qu'il y a des troupes françaises stationnées dans des pays frontaliers d'Ukraine. On sait qu'effectivement, comme Poutine le dit, puis ça c'est vrai, il y a des mercenaires français sur place qui peuvent avoir des connexions avec les forces armées françaises, assurément. Là, quand il y a les chiffres, il y en a exactement 367, puis on en a tué 182. Ta gueule, le porte-parole du Kremlin. Sauf que il y a au final assurément du mouvement hostile de troupes françaises vers le siège ukraino-russe. Là, il y a une nouvelle frontière qui se dessine. Probablement que dans quelques années, ça va être russe à l'est de cette frontière-là. Parce que les Ukrainiens, effectivement, sont en train de perdre la bataille. Et j'ai de la misère à comprendre un peu c'est quoi la fixation des Occidentaux sur l'accès à la mer Noire pour l'Ukraine. Parce qu'il y a des pays autres, notamment la Roumanie et la Bulgarie, qui ont des accès à la mer Noire, qui sont des alliés à nous autres, qui nous permettent assurément d'aller mouiller ou d'aller se débarquer un bateau dans cette étendue d'eau-là, qui est quand même d'un acabit intéressant, puis qui stratégiquement, oui, est important. Mais ce serait Odessa qui inquiéterait Emmanuel Macron au point où, là, c'est ça, des bottes sur le terrain, et donc le bras dans le tordeur d'une guerre contre une puissance. Je remonte à Napoléon, avec laquelle personne n'a réussi à gagner depuis Mathusalem. OK? Même les Norvégiens ont déjà battu les Russes. OK, ça fait un méchant bail de ça depuis que la nation russe est pas mal ce à quoi elle ressemble maintenant. Il n'y a personne qui les a battus. Puis d'ailleurs, les Russes se sont pas privés de signaler ça aux Français avec cette tension-là où les Français menacent d'envoyer des bottes. Mais c'est un rappel qui est logique, t'as pas le choix d'y repenser. Napoléon, dans sa chute, sans son incursion en Russie, il aurait toffé pas mal plus longtemps. En poste comme empereur de la France et finalement quasiment de l'Europe. Là. Mais là, en plus, les Français sont mal positionnés. Les Russes sont à côté, ils sont dans une tranchée. Là. Ils attendent juste que quelqu'un s'engage contre eux autres pour le descendre. Et là, ça commence à être une histoire d'aviation. Oui, mais l'aviation française est supérieure à l'aviation russe. Un, je suis pas certain. Deux, tu sais, c'est la troisième guerre à quelques tirs de missiles près. Là. La France contre la Russie, on laisserait ça, nous autres, se passer. Tu sais, si les Français attaquent les Russes, qu'est-ce qui empêche les Russes d'attaquer les Français sur leur sol? Les lois de la guerre le permettent. Là. Il y a eu des grandes annonces, tu sais, gonflées depuis le début de tout ça, depuis 2 ans, comme quoi on était sur le bord de l'Holocauste nucléaire dès les débuts des hostilités. Et c'était exagéré. Là, ça l'est moins. Là. C'était justement ça qu'il fallait craindre. Cette escalade-là, les Français semblent très proches. Odessa serait le déclenchement de leur mise du doigt dans le tordeur. Il y a le hashtag « Va te faire foutre » qui est extrêmement populaire présentement sur X. Et je t'explique, mon Chico, c'est France vs Ukraine vs Russie qui est derrière ça. La seule façon de montrer à Poutine que nous ne céderons pas, c'est de faire appel au sang des fils et filles de France. Général Desportes, grand patron de tout ce qui est militaire en France, au cours des dernières heures.
Ça me semble plutôt clair.
Le hashtag va te faire foutre est la réponse à cette merde. Poutine ne va pas envahir l'Europe. Poutine n'est pas Hitler en 1938. Poutine ne va pas envahir l'Europe si on ne l'arrête pas à l'Ukraine. S'il avait voulu envahir l'Europe, ce ne serait pas 2 ans qu'il est bloqué dans le trou de cul du monde du Donbass, qui, OK, a des capacités industrielles pas si pires, puis oui, OK, plus bas, il y a l'accès à la mer Noire, puis il y a des matières premières quand même d'un intérêt. Mais de c'est quoi, ça va y prendre 25 ans pour se traverser l'Ukraine? C'est complètement farfelu. Et en Europe, tous les dirigeants s'accordent pour dire ça, sauf peut-être Mélanie en Italie, qui des fois adopte le discours ambiant, des fois va un peu réfléchir davantage. Il y a le président de la Hongrie aussi, Viktor Orban, qui se refuse à tomber là-dedans. Mais sinon, c'est un concert de violon faux. Ça sonne faux, ça fonctionne pas, c'est de la merde. C'est pas vrai. Il peut pas. Il y a le PIB du Canada, même pas. Ah, oh, il y a beaucoup de noirs. Puis ça. OK, il a investi, tu sais, en proportion 100 fois plus que le Canada dans les dernières décennies dans l'armée puis dans la fabrication industrielle que nous autres. Mais ça fait pas qu'il peut se pogner contre la France puis tout le reste de l'Europe en même temps. Puis donc, les États-Unis, oubliez pas que l'OTAN, même si le gros Donald semble pas aimer la patente tant que ça, il a dit récemment que c'est des techniques de négociation. Ben oui, c'est pas si subtil de finir par le dire, mais c'est ça pareil. Il veut que le monde s'arme puis achète des armes US au lieu que les States dépensent pour leur défense à eux. Ça se comprend. Mais même lui, tu sais, la France est attaquée. Il resterait là les bras croisés, le gros Donald. Ben non. Mais encore moins Joe Biden. Il n'y a pas un Robert Kennedy Jr. qui semble plus isolationniste. Il ferait quelque chose. Fait que les Russes qui attaquent, ne serait-ce que la Roumanie, c'est une réponse des pays les mieux armés de l'histoire de l'humanité contre la Russie, OK, qui a une puissance qui pète au-dessus de son trou, mais qui ça n'a pas rapport.
Ouais, la Russie a perdu des troupes, la Russie a perdu des dirigeants, la Russie a perdu aussi beaucoup de cash. À quelque part, ils sont pas autant en shape que la plupart des pays présentement en Europe. Là.
Le but, supposément, était ça, d'affaiblir la Russie. Mais économiquement, je suis désolé, on disait que ça allait s'écrouler rapidement, que l'économie russe allait faire en sorte que Poutine ne serait pas réélisible. Il vient d'être réélu avec 80-quelques%. Parce que l'économie russe a passé au travers haut la main. Les sanctions, en fait, au final, pas mal convaincus de ça, vont en faire plus de tort aux pays qu'ils ont imposés, notamment les États-Unis, avec leur étalon dollar qui a jamais pâti comme ça, puis qui, s'il se termine, ça pourrait mettre fin à carrément la puissance américaine comme on l'a connue depuis la Deuxième Guerre. C'est vraiment menacé, parce que là, le monde a commencé à payer du pétrole autrement qu'avec ça, puis etc., là. Il y a bien du monde aussi qui a peur du dollar US pour leur fortune, donc ils vont dans d'autres devises parce qu'ils se disent « shit, tu sais, s'il y a un beef avec eux autres, ils peuvent aussi bien faire en sorte que je passe de milliardaire à cassé. » Voyons, on peut pas se baser sur leur devise à l'avenir, là. Ça marche pas. Fait que c'est un epic fail vers quoi on se dirige, puis j'aurais aimé ça qu'il n'y ait pas d'entêtement, mais c'était prévisible qu'il allait y en avoir. Ils n'ont pas été capables de parler de paix, alors qu'il y a des centaines de milliers d'Ukrainiens qui ont été mis dans le meat grinder depuis le début. Fait que pourquoi pas, tant que rendu là, en mettre des vies françaises, des vies canadiennes en jeu. Du monde qui se sac des vies humaines à ce degré-là. Parce que la Russie gagnerait pas une guerre contre l'Europe, mais la Russie ferait en sorte qu'on aurait des pertes énormes. Puis la Russie a le deuxième arsenal, ou peut-être le premier en termes de nombre d'ogives nucléaires au monde. Si t'es accule au pied du mur, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire, Vladou? On peut-tu lui donner le Donbass? On s'en tape. Stratégiquement, là, globalement, c'est plate. Là. Je sais qu'il y a... Il y a des Ukrainiens sur place qui aimeraient mieux demeurer dans le giron plus européen. Il y a une bonne proportion aussi qui ont plus d'affinité avec la Russie, là, by the way. Comme, je répète, 10 ans d'annexion de la Crimée, les sondages qui avaient été menés par des Occidentaux là-bas montraient que l'appui à l'annexion par la Russie était très fort. Le référendum russe, on peut prendre ça avec parcimonie puis du recul, OK, mais ça reste... Les gens-là, c'est des russophones. Puis la langue ukrainienne, by the way, là, qui est obligatoire maintenant et qui avait été obligée à du monde, c'est comme si les Anglais se pointaient ici puis ils disaient, vous allez parler le français de France maintenant. Avant la guerre. Ouais, ils n'ont jamais été ostracisés, les gens du Donbass. Il y a eu des lois comme ça, de l'administration Zelensky, carrément, où le russe était interdit et il fallait parler l'ukrainien, que personne parle. Le monde parle russe. C'est une espèce de props. Là. Puis là, sur le terrain, ils sont supposés de parler ukrainien. C'est de la merde, là. Ça parle russe, c'est des russes. OK, plus à l'ouest, c'est plus des Polonais. C'est tout. C'est un pays frontière, c'est un pays tampon. Ça aurait dû rester comme ça. Et la révolution qu'on a fomentée en 2014, qui brisait une volonté électorale démocratique, ça nous pète d'en face, puis on s'entête, puis ça nous pète toujours de plus en plus d'en face. Et ça va être la même affaire avec des troupes françaises sur le terrain, puis après ça, des troupes canadiennes, puis après ça, des troupes US.
Ça va être tough pour sa conscription en France.
Pas mal. Pas mal.
Pas mal plus qu'ici, de pas
d'ailleurs, j'arrête pas de voir des images de soldats ukrainiens qui essaient de ramasser du monde dans la rue pour les amener de force sur le champ de bataille. Ça va tout. Bon, l'Ukraine, c'est déjà fait. C'est terminé. Ils ont perdu. C'est surprenant ce qu'ils ont fait. En passant, je veux pas dénigrer les soldats ukrainiens. Il y en a plein qui ont été extrêmement courageux puis qui... tu sais, ils veulent pas tomber dans le giron russe, OK. Sauf des fois, c'est pas smart. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des entêtements comme ça qui, au final, sont bien honorables là, sur papier, mais tu sais, moi, je trouve que la vie humaine, tant qu'on sait qu'il n'y aura pas, après, le nazisme instauré sur la planète entière, c'est le meilleur choix. C'est tout. Faut calculer froidement ce qu'ont les intérêts. Puis les intérêts sont pas à s'entêter là-bas. Mais oui, Poutine va avoir gagné. Il y a lieu de pas aimer ce personnage-là. Oui. Oui, oui. Mais tu peux pas passer des centaines de milliers de personnes comme ça au meat grinder pour ça. Ça me fait penser, tu sais, je reviens à Napoléon. Ces époques-là, puis jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, c'était des guerres où c'était pour des égaux de familles royales. On tuait des centaines de milliers de personnes. C'est le même phénomène. Macron, c'est pas un roi, mais sa gang se pense assez importante. Ou en tout cas, considère des choses de ce geste-là, puis est capable de se lancer dans ce genre de patente-là pour des considérations similaires. Faut que ça arrête. Faut pas laisser faire ça ici. Écrivez à votre député fédéral pour lui dire, même si c'est un conservateur, puis on sent que Pierre Palaver est moins chaud à cette idée-là, écrivez-leur pour leur dire, pas question qu'on laisse des soldats aller là-bas. Encore mieux, on veut la paix, s'il vous plaît, agissez en conséquence.
Dans une moindre mesure, il y en a d'autres qui vont dire que l'Afghanistan, c'était aussi une guerre d'égo.
Ben, tu dis, toi. Man, l'Irak. L'Irak, c'est des centaines de milliers de personnes. T'es-tu en train de dire que t'aimais Saddam Hussein? Non. Puis, il y a pas mal de dictateurs que j'aime pas partout ailleurs. Pourquoi lui? Ça a donné quoi? Ça a donné quoi, là?
Parle-en à ceux qui sont allés sur le terrain et qui sont revenus dernièrement.
Là. C'est une démocratie, l'Irak, là? Non. Ben, c'est plus démocratique que sous Saddam, OK. Est-ce que ça valait le coup de ruiner la place? De tuer des centaines de milliers de personnes? Des enfants qui ont perdu leurs deux parents, des dizaines de milliers. Parce que Bush était pas content que Saddam avait fait une tentative d'assassinat sur son papa. Puis il trouvait que son papa aurait dû finir le travail dans l'opération Tempête du désert en 91, guerre du Koweït. OK? Puis, bien évidemment, la vraie raison, c'est que le complexe militaro-industriel disait à des gens comme Dick Cheney, ça ne prend une guerre. L'Afghanistan, ça a été trop facile. Si t'as pas d'utilisation de ton armée, t'as pas d'armée. Puis, t'as pas de complexe militaro-industriel capable de te fournir des munitions en cas de vrai problème si une fois de temps en temps, on n'a pas une poussée où les besoins d'armement sont extrêmes puis on doit produire en série comme que la Russie réussit à faire en ce moment, mettons. Là, fournir des munitions pour un champ de bataille où le phénomène est existentiel. Viens de voir l'heure. On prend un break, là. On n'a pas le choix.
À date, on a fait un sujet et demi.
Ouais.
On est pas pire.
On parle de sport, non, on est plus léger. Vous écoutez Politigui, correct. Pause. Honorez nos commanditaires, s'il vous plaît. C'est important. Encouragez-les. On sait que vous le faites, mais on le dira jamais assez. Puis, on va peut-être checker les textos éventuellement. 418-903-5969.
Aventi, Mermaid et plus encore.
Un jour, je serai le meilleur joueur. J'ai tant pris sans répit. Le bingo de CJMD, les dimanches après-midi. Le bingo à CJMD. Une si belle activité. 3000 piastres à chaque semaine qu'on vous donne à CJMD.
Pas étendre, amenez votre feuille. Trop de temps.
Écoute ça.
Écoutez CJMD 96.9.
Vous écoutez Politique Correct.
Ouais. Faites bien. Quelque chose que vous feriez bien aussi, c'est d'appeler Ameublement Ford pour vos électroménagers usagés. Souvent, ils sont reconditionnés, ils vont marcher peut-être même plus longtemps que de quoi de bien flambette où il y a de l'obsolescence programmée. Un frigo, mettons, 1990, l'obsolescence programmée n'était pas la même. Puis là, ils ont changé la pièce qui faisait problème. Ameublement Forg est votre meilleur ami pour la durabilité, pour l'écologie, pour le déménagement aussi. Et en même temps que vous vous faites livrer vos électros pour le prochain logement, et c'est le temps de réserver maintenant, peut-être pour juillet, Ameublement Forg, ils ont du bon référencement web. J'ai pas l'adresse directe tout de suite, .com ou .ca, mais tu tapes Ameublement Forg sur Google, tu tombes dessus assez facilement. Une chose sur quoi je suis tombé. Ah, ma revue X, c'est le hashtag circulation. C'est vrai, j'ai oublié de te demander, Chico, si s'il y avait des problèmes sur la route avec la neige. J'ai l'impression que c'est possible. À matin, ça a été le bordel.
Ça a été le bordel, notamment sur la 20, puis dans le secteur Saint-Nicolas. Moi, quand je me suis envenu, j'ai vu une des fameuses vannes qui a pris le clou, parce qu'on m'a dit que c'était quelques vannes qui avaient pris le clou ce matin. Ouais. Et c'est encore problématique, là, la 20 direction est, mais dans le secteur, là, je te dirais, route Lagueux, là, c'est pas mal ce coin-là où c'est un peu plus problématique, les grands vents qui tapent solide dans ce coin-là. L'accès au pont La Porte, pas de problème à venir jusqu'à date. Même chose pour de la capitale en est, un petit peu de rouge. Même chose ceux qui s'en vont à Val-Bélair dans le nord. Par contre, j'ai l'impression que beaucoup de télétravail aujourd'hui, vu les conditions de ce matin.
C'est correct. De même aussi, c'est une belle affaire qu'on a obtenue de la pandémie. Peut-être qu'on va obtenir un départ suite à tout ça qui va faire suite au hashtag Freeland. Chrystia Freeland, la vice-première ministre, la ministre du budget, comment ça, des finances, est en commission parlementaire pendant les temps qui courent pour se faire questionner, notamment sur la taxe carbone. Là, Paul Ever, Pierre Poilievre, a demandé des élections anticipées, finalement, avec un vote de confiance, je pense que c'est hier, spécifiquement sur la taxe carbone, en sachant que ça ne se produirait pas. Mais lui, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait peut-être un ou deux baby boomers dans une région du Québec qui se réveillent et qui arrêtent de voter Bloc québécois et de leur faire comprendre que c'est parce que le Bloc fait fonctionner le Canada. Tu sais, il n'y a pas d'histoire de beau risque là-dedans. Il marche carrément avec un Trudeau, main dans la main. Il y a quelques petites critiques à l'occasion qui semblent contrôlées. C'est pathétique. Et c'est ça, le Bloc québécois. C'est des woke, c'est des progressistes extrémistes. Et c'est ce qu'il veut mettre en exergue avec sa petite manœuvre qui ne fonctionnera pas. Ça ne fera pas tomber, évidemment, le gouvernement Trudeau. Mais là, c'est ça. C'est vrai que c'est de la boîte, la taxe carbone. C'est pas avec des taxes que tu vas réussir à ce que le climat s'améliore, malgré que supposément des spécialistes disent ça ad nauseam. Christian Freeland se fait demander, anyway, combien ça rapporte la taxe carbone dans cette commission-là? Et nomme-moi un animal.
OK, un panda.
Une anguille.
Ici, boire, OK?
Insaisissable, elle n'est pas capable de donner quoi que ce soit de tangible quand on se fait questionner là-dessus. Mais le plus inquiétant, c'est comment ça aide, là? À date, là, ça réduit de combien le carbone? Le mot anguille est trop sympathique, là. Oublie ça. Elle ne sait pas. Elle veut pas le savoir. Ce qu'elle cherche, c'est du pouvoir pour l'État. Un État qui pense à lui en premier, puis qui fait suer les commettants, tout un chacun, les citoyens qui, finalement, doivent être des exécutants. C'est ce mood-là qui est recherché. Puis des fois, je sais, c'est pas toujours consciemment, mais dans le cas de Chrystia Freeland, des fois, on a l'impression que ça ressemble à ça pas mal. Fait que son hashtag me permet de vous dire ça. Ainsi, et je pense que ça se produisait à Ottawa. J'ai hâte de voir comment elle va retourner dans son quartier chic de Toronto. Par la suite, probablement en avion avec soit de la première classe, soit du jet privé, de quoi où la plèbe ne pourra pas la déranger et où elle va dépenser du CO2 allègrement en ayant la conscience très tranquille. Comme François Legault qui dit que la conscience tranquille pour son vote sur Yves Michaud. Je vais parler de ça deux secondes. C'est pas dans les hashtags. Yves Michaud est mort hier. J'ai parlé de lui comme d'un exemple d'anti-groupthink, d'anti-phénomène de meute. L'Assemblée nationale l'avait traité d'antisémite unanimement pour des raisons de marde qui étaient fausses, une prémisse complètement erronée. François Legault était tombé dans ce piège-là. Je l'ai vu tantôt dire qu'il vivait bien avec sa décision. Qu'est-ce que Yves Michaud était aussi? On l'appelait le Robin des banques. Vous voyez pas de lien entre le fait que l'Assemblée nationale il tombe dessus comme ça, unanimement, puis sa croisade contre ces cochonneries-là qui sont un outil d'establishment comme il en existe à peu près pas d'autres. OK, il y a le pétrole, l'énergie en général, là. Il y a quelques autres entités comme ça. Ah, vous pensez qu'ici, c'est, l'énergie, c'est terminé, c'est plus de l'establishment qui s'enrichit à cause que Hydro-Québec est là depuis René Lévesque? Regardez les fournisseurs d'Hydro-Québec. C'est là qu'au Québec, ça se cache. Mais c'est moins pire que ça aurait été, évidemment. Vive René Lévesque puis sa nationalisation. Mais les banques au Canada, un oligopole bien protégé, bien mené, mais pas nécessairement par ses dirigeants. Mais regardez les salaires de ses dirigeants. Tu mettrais une facochère à la place de la direction de la CIBC, puis ça verrait peut-être même encore mieux. Parce qu'il essaie tout le temps de faire des espèces de développements, genre au Pérou. Une fois de temps en temps, ils ont des aventures parce qu'ils sentent mal de rien faire à ce degré-là, puis d'avoir 30 millions par année. Et c'est ça. Lui, il était sur leur dos. Puis c'est comme ça que sa carrière politique s'est pas mal terminée. L'Assemblée nationale au complet. Le traité, finalement, nazi. Donc, il n'y avait absolument rien contre les Juifs. Il n'a même pas dit quelque chose d'anti-juif, anti-sioniste. Il n'a pas dit qu'Israël devrait faire attention aux Palestiniens, mais il n'a même pas dit ça.
Grosso modo, c'était que les Juifs n'avaient pas le monopole de la souffrance. Je pense que c'était à peu près ça.
Ouais. Puis de l'absence de nation correspondant à leur existence. Puis là, tu sais, on n'existe même plus Canadien-Français. On n'a pas le droit de se nommer. Il y a encore un mouvement souverainiste. C'est assez ridicule, ça. Mais ça, je pense pas que les gens sont sérieux là-dedans. Parlant de facochère, j'ai pogné le hashtag Ringo. Peux-tu checker si Ringo Starr est vivant?
Ben, aux dernières nouvelles, il l'était. Hein?
Ça m'a fait peur, là. C'est peut-être une nouvelle à la Normand Brathwaite.
Ringo Starr, il est né, on n'a pas de date de décès, là.
Merci.
83 ans, by the way, Ringo.
Ouais. Puis tu sais, il a dû faire le party, pas pire, pareil, lui. Au moins, il est de la bonne génétique. Mais ouais, là, je clique là-dessus. Okay, Ringo est vivant. Je trouve pas s'il est vivant, mais je sais pas pourquoi. Je tombe sur une vidéo de 3-4 sangliers. Mais c'est des facochères, ça, OK? C'est plus gros que les sangliers qu'il peut y avoir en Europe et en Amérique du Nord maintenant. Mais ils sont en train de manger vivant un léopard. Puis le léopard, il n'est pas en mesure de se défendre. Zéro. C'était ma chronique, ma mère, du jour.
Ben, t'as déjà entendu la loi de la jungle?
Ouais, mais donc, dans ma tête, c'est un festin d'Obélix. Il s'en claque trois en les tournant. Là.
Hey, il doit être malin.
Mais
quoi,
non, mais cochon, c'est ça. Là. Mais un cochon, en tout cas, tu sais que je puis ça du meilleur film de gangster d'histoire de l'humanité, c'est Snatch. Faut se méfier des éleveurs de porcs.
Ben, je sais. Notre plus grand tueur au Canada, c'était ça.
Parce que ça dévore les os comme du beurre. Puis, c'est pas des blagues. Il reste juste les dents à ramasser après. Facile de se débarrasser de ça facilement.
C'est exactement ce qu'a fait Pickman en Colombie. Pickton, ouais, c'est-à-dire.
Ouais. Robert Pickton. Mais, pas l'impression que des porcs domestiques vont te manger quand tu, mettons, tu trébuches dans l'enclos, ils vont te dévisser. Mais j'ai entendu souvent qu'il fallait faire attention à ça, des facochards, puis des. Même des sangliers. Je dirais, non. Ouais, vous regarderez la vidéo, là, tapez facochère versus jaguar ou léopard. Là. Ah! Yeah! C'est j'ai vu des meurtres moins violents.
Je veux pas t'écœurer, mais tu sais que les propriétaires de chats et de chiens, quand ils décèdent puis que la bête est dans l'appartement puis que ça dure 2-3 jours avant qu'ils le retrouvent, souvent il y a une job de fait.
Ça, c'est une affaire. Le chat va te manger avant le chien en passant. Le chien va te manger. Quand il sait que c'est sa survie qui est en jeu, puis il n'y a absolument pas d'autre choix. Propriétaire de chat, vous devriez reconsidérer votre patente. Et en plus, vous faites du tort à la santé avec l'ammoniaque qu'il y a dans la piste, même si vous changez la litière. Souvent.
Vous coûtez cher à domp aussi, Bruno Marchand vous l'a dit. Là, 8$ ou 10$ par chat?
Oui, Régis des chats vivement à Lévis. Non, c'est une blague. Quand même, c'est une blague. Mais ça peut être utile pour les rats. Et j'ai un petit hashtag slash titre de la presse que je veux mentionner avant qu'on aille chercher mon chum T-Butch au téléphone. Hashtag 3 rats peut-être, là, ou le titre est Montréal, de moins en moins attrayante pour le reste du Québec. C'est préoccupant, supposément, pour certaines personnes. Pour Valérie Plante, probablement, pour sa réélection. De toute façon, sa présence, je comprends que dalle de ça. Mais ça montre ce que c'est que Montréal et ça montre ce que ça a comme effet sur les esprits, mais sur tellement d'autres choses. Une grande ville. Il n'y a rien de plus toxique qui existe sur la planète. Il n'y a rien de plus réchauffant aussi que ça, by the way. Mais là, c'est ça. Moi, je pensais que c'était comme une suite de la pandémie. Le monde à la retraite fuit la ville de Montréal, veut se réfugier en nature et, bon, certains autres un peu plus vieux qui peuvent se le permettre se disent, tu sais, je veux pas être repogné dans une situation comme ça. On a vu que, tu sais, pourtant c'est évident, mais quand il y a de la précarité, la ville, il n'y a rien de la précarité généralisée, t'sais, je sais pas, une famine, une pandémie, une guerre, il n'y a rien de pire qu'une ville. C'est pas juste ça. Les jeunes adultes aussi, et là je dis waouh! Parce que c'est excellent et je répète, c'est une très bonne nouvelle pour l'environnement, mais c'est bon pour la jeunesse aussi parce que la ville vient avec, ça, moi je l'ai vécu à plein, passer de la campagne en ville, début de mon adolescence, c'était x10 le vice, ça il n'y a pas à dire. Fait que Montréal de moins en moins attrayante pour le reste du Québec, excellente nouvelle. On prend un break, on parle de boxe. Normalement, au retour de ceci, n'oubliez pas que c'est Snooze Day ce soir. N'oubliez pas que cette fin de semaine-ci aussi, on commence à attribuer, on fait des finalistes pour...
Excusez, je vais y dire le chalet parce qu'on a fait plusieurs chalets.
On le dit, que c'est le sport.
Je pense qu'on vient de l'annoncer, mais en tout cas, restez sur la page Facebook du Bingo le plus fou du monde. C'est là que les infos vont...
On donne pas un billet pour le spa, là?
Non. Un spa, littéralement. T'as envie d'en avoir un dans ta cour? Écoute le bingo, participe. Et dès ce week-end, on commence à faire des finalistes. Bon. Gracieuseté.
Centre national de conduite d'engins de chantier.
Vous écoutez l'alternative radio anticonformiste. Innovante. Fucking fresh. 96.9.
OK, c'est le dernier droit, les paupiètes, les 17h12, les snooze s'en viennent. Dans les prochaines minutes, on a une playlist hip-hop aussi entre les deux affaires. On parle de T-Butch Bouchard dans quelques instants. Juste le temps que je vous dise que la neige, c'est pas terminé. La fin de semaine va amener son lot. Il est question de 10 cm. t'avais vu? T'avais vu 15, mon esti?
Moi, j'ai vu 15, mon gars.
Tu sais, t'as regardé ça que j'avais vu là.
Mais mon laptop me parle maintenant. Dans le coin inférieur gauche, j'ai toujours un genre d'alerte météo qui est comme pas vrai.
AccuWeather.
Je sais pas trop.
Moi, c'était ça. Demain, ils annoncent pas faire. Ça va être venteux, mais c'est de l'ensoleillement. La vitamine D va se prendre avant que samedi, on mange ça par la tête. Dimanche, ça se dégage à un moment donné. Puis on retrouve des températures au-dessus du point de congélation, mais rien de si formidable que le mois de février nous a laissé présager. Je vous parle deux secondes de Calinette parce que c'est des machines parfaitement rodées pour aider dans les moments difficiles. T'as quasiment envie qu'il t'arrive une bad luck pour les voir à l'œuvre. Les gens de Calinette sont bien coordonnés, sont beaux à voir aller. Et c'est pas aussi beau que comme ils laissent la place une fois qu'ils ont terminé, mais ils te règlent des problèmes. J'ai failli les appeler sur quelqu'un, moi, récemment, mais on m'a dit que c'était pas nécessairement faisable. J'ai vu les bottes
t'as bien fait.
De gars des frères barbus dans l'entrée, ici, dans la station. Puis j'ai failli appeler Calinette. 666-6666. C'est aussi simple que ça. En passant, ils cherchent du staff pour vous joindre à leur équipe de machines bien rodées. rhquebec@calinette.ca ou l'onglet emploi du site calinette.ca. C'est simple de même. Et je répète, t'as pas le choix d'appeler Calinette. Quand c'est let, ça va pas bien, ils vont t'aider de la meilleure façon possible. On parle à Sébastien Bouchard qui, dans bien des cas, se passe de présentation, mais salut mon chum.
Salut boys, comment ça va?
Ça va bien. Je t'ai googlé pour essayer de trouver des détails sur ton gala en fin de semaine, puis je suis tombé sur un PhD en psychologie. T'as bien un doctorat maintenant en la matière, tu bouches? Non.
Ben, pas tout à fait encore, j'ai pas terminé.
Tu travailles là-dessus. Tu travailles aussi bien fort sur ta carrière de boxe encore. On est fiers de te voir continuer là-dedans. Tu sais, aussi, je suis tombé sur des choses genre combat de la dernière chance, la dernière fois que tu t'es battu. Ben, c'était pas vrai parce que ça se poursuit pour toi. Peux-tu nous parler de comment tu te sens? C'est quoi le combat en fin de semaine, s'il te plaît? On t'a bien curieux.
Ben écoute, je me sens bien. Sauf ce grand entraînement qui a été parsemé dans la bûche, là. Des petites blessures ici et là, des virus qui courent. Écoute, avec trois enfants à la maison, ils nous ramènent ça un peu. Mais dans l'ensemble, ça va bien. Je vais me battre contre Jean-Michel Poulin, qui est un gars qui a été champion canadien chez les amateurs, qui est un petit peu du monde de la boxe, qui n'a pas été très connu, mais que là, qui revient en force. Puis le gars, il est champion canadien à 160 livres. Moi aussi que j'évoluais chez les 147 livres. On a fait un catch weight à 154, donc on va se battre pour la ceinture canadienne à 154 livres.
OK. Ça se passe à Drummondville. C'est quoi l'amphithéâtre? C'est quoi le cadre en général? Comment ça se
produit? Le centre expo à Drummond, si je ne me trompe pas, là, c'est une nouvelle genre salle des congrès, quelque chose comme ça. Là, puis ça a l'air, c'est neuf, c'est propre. Puis ça a l'air, c'est une super belle place pour faire un show de boxe.
OK. Tu me dis des petits problèmes, des petites blessures. Les rhumes, chez nous, ça a passé deux fois en deux semaines. J'ai été chanceux de m'en éviter une des shots. Mais ça, c'est pas ça qui t'arrête. Mais tu avais une blessure sérieuse. À un moment, tu as dû prendre une pause de plusieurs mois. Et ça, est-ce que c'est complètement rétabli?
Bon, oui, c'est rétabli. C'est juste que, tu sais, au fil des années, là, moi, je me suis fait opérer les deux biceps. Je me suis sectionné les deux tendons des biceps. Ouais. Je me suis déchiré la coiffe des rotateurs. Deux tendons déchirés dans le coin des rotateurs, l'autre épaule est méganée. Fait que, c'est toutes des blessures qui reviennent. Avant ça, on les sentait pas. Du coup, c'était guéri, c'était fini. Mais on dirait qu'avec l'âge, à chaque camp d'entraînement, le dernier camp d'entraînement, c'était la même chose. Écoute, ça allait super bien. On était en fond, on se sentait dangereux. Puis quand on arrive vers la fin dans les dernières semaines, on dirait qu'on est plus fatigué, le corps est un petit peu plus à bout. Puis là, les vieux bobos ressortent.
T'es rendu à quel âge, là?
Vieux. C'est là que mon vieux 36 se fait sentir.
Mais ça reste, tu sais, il y a des moyens de mener ça plus tard. On pense à Hopkins, ben gros, quand on parle de vieux. Puis lui, c'était quoi? C'était rendu... quand il a battu Jean-Pascal, il avait 40 quelque, 46?
Oui, mais tu sais, oui, mais Bernard, ce gars, il a commencé la boxe très vieux aussi. Okay. Il a fait de la prison. On s'appelle, en bas âge, il a fait de la prison. Il a commencé à boxer en prison. Puis c'est par la suite qu'il a commencé à évoluer dans la boxe. Il a commencé dans la mi-vingtaine, je pense, à boxer, quelque chose comme ça. Fait que ça l'a préservé un peu son petit corps. Mais tu sais, il y a aussi les génétiques. Les Bernard Hopkins, là, sont très peu nombreux dans la boxe. C'est très, très, très rare. Je te dirais que, quoi, on a que dans 35, 36, 37 ans, on est pas mal Le corps, généralement, là, si on fait une moyenne, pas mal tout le monde arrive un peu à l'usure. Même si, quand on regarde au hockey aussi, tu sais, un joueur de hockey là, qui arrive à 34, 35, 36, 37, là, les gars sont un petit peu, tu sais, le body commence à s'en faire sentir un petit peu.
Ce qu'on pense pareil avec ton expérience, puis là, j'ai pas l'impression que tu envisages ça comme un dernier combat non plus. C'est quoi qui se passe après quand tu vas passer au travers du petit gars?
Après avoir passé au travers du coup, il va rester pour possiblement un combat.
OK.
Ça tire à sa fin. Je l'ai dit ouvertement. Là, ça commence à être tough pour moi, pour mon corps. Ça commence à être tough pour ma conjointe aussi. C'est tough pour mon équipe. Mon équipe, on est job à temps plein aussi. T'sais, la boxe, c'est pas un sport qui est très rémunéré, à part des exceptions. Mm-hmm. Fait que mon équipe travaille aussi. Moi, je travaille. Tout le monde travaille. Fait que tout le monde fait des sacrifices depuis tellement d'années qu'à un moment donné, il faut que j'arrête d'être égoïste là-dedans puis que je pense aux autres aussi. Fait que, tu sais... Après ce combat-là, il va possiblement rester un combat de salutation à Québec. Peut-être pour une ceinture, peu importe, mais on va finir dans la gloire à Québec.
Finir ça sur une ceinture, ça serait bien sympathique. Comment tu vois ça par la suite, là, ta business? Qu'est-ce que tu veux faire après?
C'est une bonne question.
Pas rendu là.
Beaucoup de remises en question, tu sais, quand on passe à une retraite chez un athlète comme moi, là, qui a fait plus de 20 ans, là, c'est sûr que ça va chambouler beaucoup d'affaires dans ma tête, dans ma vie. Fait que...
Mais t'es ouvert des portes pareil, là, tu sais, t'as beaucoup de possibilités, t'as beaucoup de monde qui t'admire, etc. J'ai l'impression que tu t'aimerais peut-être ça rester dans le domaine public, est-ce que je me trompe? Parce que...
Ben, c'est sûr, j'aime bien. T'sais, j'aime bien la radio, premièrement. Là, je vais me ployer, là.
J'adore.
J'aime bien la radio. j'adore ça, mais sinon, là, on va voir ce que la vie va m'emmener. Je suis pas trop stressé. T'sais, partout où je suis allé dans ma vie, j'ai réussi à bien réussir. Fait que je fais confiance à la vie. Je vais donner un petit peu de temps pour ma famille et ma blonde aussi qui font des sacrifices pour moi depuis des années. Fait que c'est ça, on va mettre les priorités aux bonnes places, mais pour là, il lui reste encore un combat puis un autre, puis après ça, on va tirer la plaque.
On n'est pas inquiet. Juste parlant de vieux boxeurs, le plus vieux que toi, Mike Tyson. C'est un autre physique. Lui, c'était une espèce de machine qu'on n'a pas vu souvent, carrément, même, tu sais, avec le bassin de l'humanité entière. Il est rendu à quel âge? Il va se battre contre Jake Paul prochainement. Je veux que tu me parles de ça. 57.
Je crois, 57 ans.
Jake Paul, il est dans la vingtaine. Il est en shape, puis il est surprenant comme boxeur, pareil.
Tantôt, on parlait de Bernard Hopkins, on parle d'exceptions en Mike Tyson, en Bernard Hopkins, tu me parles des exceptions.
Ouais.
Je pense que Jake Paul a affronté plusieurs nobody, des anciens gars de MMA à la retraite, des anciens boxeurs à la retraite, mais tu sais, quand tu parles d'une exception comme Mike Tyson, je pense que s'ils font vraiment un vrai combat, là, s'il n'y a pas de game là-dedans, puis c'est vraiment un vrai combat, je pense qu'il n'en créera pas ses yeux. Les gens qui pensent que Mike Tyson est magané et tout, attendez un instant, on parle de Mike Tyson. On parle pas de Sébastien Bouchard qui va revenir à la boxe à 57 ans faire un combo. On parle de Mike Tyson. Un des plus durs cogneurs de l'histoire de la boxe.
Exact.
Tu regardes ses vidéos encore, moi je suis sur Instagram, là, le gars, il est explosif, il a des musculaires incroyables. Puis une des dernières choses que tu perds, tu sais, souvent on perd un petit peu notre vitesse en vieillissant, la connexion neuromusculaire ralentie.
Okay.
L'influx nerveux qui se rend à ton cerveau, ton cerveau qui s'en va à tes muscles, fait que tu vas moins vite. Mais la dernière chose que tu perds, c'est ta force de frappe. C'est la force de frappe, puis ta mélange de vitesse, de puissance, puis de coordination. Fait que tu sais, Mike Tyson, il doit gagner encore comme une mule. Fait que si vraiment ce combat-là a lieu, puis est un vrai combat, je pense que Jake Paul va capoter.
Si il l'accroche une fois, ça va se terminer là. De ce que je comprenais avec Jake Paul, il y a tout le temps comme... C'est un degré de moins qu'un vrai combat, mais tu sais, il doit avoir eu des licences, lui, finalement, parce qu'il s'est quand même pogné contre un boxeur, un vrai boxeur ou deux, à certaines occasions.
Ben, faut y donner, là. Jake Paul, là, c'est un athlète, là, tu sais, il a joué beaucoup au basketball, c'est un gars qui a des qualités athlétiques exceptionnelles aussi, là. C'est un athlète de base. Puis le gars, il est multimillionnaire. Il était à Disney, il avait 14-15 ans. Les gars sont multimillionnaires. Fait que depuis 3-4-5 ans, qui tournent autour de la sphère de la boxe, se payent les meilleurs entraîneurs au monde, les meilleurs sparring partners, puis il y a des qualités athlétiques exceptionnelles d'avance. Fait que tu sais, ça va être beaucoup. Fait que tu sais, je suis pas en train de te dire que Jake Paul n'est pas un vrai boxeur.
Okay.
Il est possiblement un vrai boxeur, mais de lancer des... Il a les moyens de ses ambitions. Alors, tu sais, quand on regarde les fiches de ces boxeurs, tout le monde se paye. Tout le monde commence puis pogne des gars un petit peu moins forts, essaie de faire leur nom, de monter dans la hiérarchie de la boxe. Ouais. Jake Paul est en train de faire ça aussi avec C'est un peu des nobody. C'est rien que lui, c'est des, il a les moyens de ses ambitions, puis il paye des noms connus. Mais il pogne des gars finis, ils se montrent plus tranquillement. Mais là, je pense qu'en allant avec Tyson, je pense qu'il a fait une erreur de matchmaking, je pense.
Vas-tu l'écouter?
Oui, pas sûr. Oui, c'est ça, je l'écoutais ça. Écoute, tu sais, un peu comme Floyd Mayweather. Elle m'aime pas McGregor. Mm-hmm. C'est pour ça que les gars ont des gros pay-per-view. Tu veux, ou tu payes pour les voir perdre, tu les payes pour les voir gagner, mais tu payes pour les regarder quand même. Tu sais, les frères Paul ont réussi à faire, tu sais, ils ont quand même, comme je te dis, ont des ressources financières quand même assez extraordinaires. Fait que les gars réussissent à shaker un peu le sport, tu sais. Ils ont envoyé chier carrément Dana White. Ils viennent en boxe, ils amènent beaucoup d'argent avec leur fanbase, qui n'est pas un fanbase de boxe, fait qu'ils amènent beaucoup d'argent dans la boxe. Tu sais, les gars, ils sont arrivés à un moment donné, ils ont fait des combats, puis ils ont séparé leur bourse avec les athlètes en sous-carte, ce qui n'avait jamais été fait dans la boxe avant, tu sais, ou dans la MMA. Fait que, tu sais, les gars font quand même des choses, faire parler d'eux, puis ils font. Tu sais, je trippe pas sur ce qu'ils font, mais ils font quand même des bonnes choses. Puis ils amènent des sous, puis ils encouragent quand même le sport à se faire voir.
C'est loin d'être tout négatif si on t'écoute, puis on comprend. Où tu vas aller, c'est au mois de juillet. On a le temps de s'en reparler. Peut-être on va te souhaiter un solide combat en fin de semaine. On peut aller te voir. J'imagine qu'il doit y avoir encore quelques billets de disponibles.
Oui, oui, exact. Puis si vous voulez y aller, là, vous pouvez aller sur ma page Facebook. Sébastien Bouchard, c'est pas compliqué. Puis il y a un lien qu'on partage souvent. Il y a un lien à mon nom. Puis vous cliquez là-dessus, vous allez pouvoir acheter vos billets par là. En même temps, moi, je touche un petit quelque chose. Fait que, gênez-vous pas pour aller sur le lien et cliquer là-dessus. Puis si jamais il y en a qui veulent des tables, là, vous pouvez m'écrire aussi. Là. C'est moi qui gère ça avec le promoteur pour les combats, les tables.
Merveilleux, mon butch. Bonne chance. Bon combat.
Merci.
À bientôt.
Merci, boys. On s'en rejase après. Oublie pas mon après-carrière.
Non, on est là pour ça. C'est pour ça qu'on se préparait.
C'est mon entrevue. C'est mon entrevue, ça.
En bouche, mais c'est fait. On te prend. Merci à toi.
C'est bon, monsieur les boys, salut,
bye. Sébastien Bouchard, mesdames et messieurs, puis c'était ça pour Politigui, correct, pas mal.
Ben là, je sais
pas. Le mot de la fin à Chico.
On va-tu gratter du calcium en fin de semaine? Non, ben non, on a gratté du calcium cette semaine, ça fait que là, on sortira pas à machinerie pour tasser les bancs de neige. Ça va être encore le dos.
Mais c'est assez capoté cette histoire-là. On l'a pas traité parce que c'était trop mainstream.
Ben là, je joue.
J'aime mieux parler à Tibouch, mais t'as-tu besoin vraiment de commenter ça?
Ben, tu regardes la charrue sur rien et c'est réglé.
Les vidéos, hein, c'est pas juste une shot, là. Non, il y a de la job pour le monde de la neige en fin de semaine.
Ouais, mais là, faut pas y payer en over. Oublie ça, il sort pas.
Le combat à Tibouch, allez sur sa page Facebook, Sébastien Bouchard, puis pogner son lien, ça vaut la peine de l'encourager. Le gars a diverti, puis a tenu le monde sur le bout de sa chaise depuis un méchant bout. C'est pas cher, puis Drummondville, ça se fait aller-retour d'une soirée, si tu fais attention à ton coude. Bonne soirée, les deux snows s'en viennent. Des paupiettes, on se retrouve la semaine prochaine, nous autres. Manquez pas le party demain, puis le bingo. Dimanche, entre autres, la fin de semaine, ça parle à CGMD, on est seul qui fait ça. Et tout dans la région. Salut! You're now listening.
La radio de Lévis.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.